Service après-vente de la F1.
Bonjour à tous et bienvenue pour le service après-vente de la Formule 1, une troisième édition consacrée cette fois-ci au Grand Prix de Shanghai en Chine. Grand Prix que on a essayé de voir, mais qu'on n'a pas vu. Il y avait une espèce de programme à la place d'attente, hein, avec des voitures qui tournaient en rond et puis ça se dépassait jamais, il y avait rien. Bon, on a quand même regardé, on s'est dit on va attendre. Donc, une nouvelle édition du service après-vente, en compagnie toujours de Shinji. Bonjour, Shinji.
Bonjour.
Oh, à chaque fois, Shinji nous gâte avec son un petit bonjour très guiré, très... Voilà. Et moi, maintenant, je vais faire la gueule. Hein. Ça contrastera bien. Ouais. Donc, Grand Prix de Shanghai, on peut arrêter l'émission là, je pense. Hein.
Presque.
Voilà, bon ben rendez-vous donc au Brésil. Non, il y a quand même une ou deux choses à dire.
Oui, quand même. Bien.
Donc, le circuit d'abord.
Ah, ou non. Ça se voit que ça t'a embêté, hein, c'est direct.
Ah ouais, direct. Transition là. À moins que tu veuilles faire une transition aussi.
Non, c'est bon, c'est très bien. C'est parfait. Donc, circuit de Shanghai.
Voilà, qui s'appelle. Vas-y, dis-le.
Tu veux que je le dise?
Ouais, vas-y, dis-le.
Le Shanghai Guoji Saicheng.
Ah là là, qu'est-ce que tu parles bien chinois?
C'est-à-dire le circuit international de Shanghai.
Voilà.
Shanghai International Circuit.
Voilà, Guanjing Dong Yang Tong Tong.
Exactement.
Tout à fait.
Donc, c'est une piste de 5,451 km, 16 virages.
Il y a des virages?
Oui, il y a des virages. Il y a même des virages relevés.
Ah, bon?
Oui, un petit banking dans le troisième virage.
J'adore le petit banking.
Bon, il est tout petit, hein. Quand tu connais les circuits de NASCAR, hein, c'est pas non plus...
Ah non, mais le coup du banking, Shinji, n'en fallait pas. Non, c'est vrai. Ça m'a d'ailleurs surpris pendant le... Comme quoi, je connaissais pas vraiment le circuit. À l'entrée de la longue ligne droite, là, c'est vrai qu'on voyait bien... L'inclinaison du virage, c'est tout à fait vrai.
Donc, le tour, il se fait en une 18 à peu près.
Peut-être.
Tu sais quoi? Eh ben pour une fois, c'est moi qui me suis trompé.
Ah bon?
Oui, c'est moi qui me suis trompé avec le Japon.
Et en plus, il me dit tout à l'heure, surtout, tu te gourres pas. Hein, tu restes bien sur Shanghai.
Non, le tour, il est en une 36.
Oui, là, c'est plus réaliste.
C'est plus réaliste.
Voilà.
Et en moyenne, environ 203-204 km/h, 202, tu vois, avec une Vmax de 315-316 km/h.
Au bout de la grande ligne droite, là.
Oui.
Voilà.
Alors, les points, enfin, les 2-3 points, je sais que tu n'aimes pas cette piste. Il y a le premier enchaînement, l'escargot.
Pour moi, qui est le seul atout, enfin, l'un des deux seuls atouts de ce circuit.
C'est intéressant parce que quand on rentre, si on rentre dans le premier virage à l'extérieur, on se retrouve à l'intérieur ou vice versa.
Voilà.
Donc, pour doubler les voitures, c'est assez intéressant. Il y a aussi cette longue ligne droite qui n'est pas la ligne droite des stands.
Ce qui est assez original.
Oui, c'est la plus longue ligne droite du circuit, mais c'est pas la ligne droite des stands. Donc, qui commence par ce fameux petit banking et qui finit par ce...
Alors là, Shinji pense à cette expression que j'utilise couramment, cette petite quéquette.
Cette petite quéquette.
Parce que quand on regarde le circuit, on a quand même l'impression que c'est une petite quéquette qui ressort dont on ne sait nulle part. Voilà, pour revenir on ne sait où.
Alors c'est une piste assez large.
Ah, pour être large, elle est large.
Mais alors un vallonnement complètement artificiel. Hein. Tout est artificiel sur ce circuit.
Voilà, tout est en plastique. Hein.
Presque.
Tout est estampillé made in China. Chaque grain de bitume est estampillé made in China.
Et il a coûté 240 millions de dollars.
240 millions de dollars?
La vache. C'est le circuit qui a coûté le plus cher à construire.
Quand on voit les projets français pour remplacer le Grand Prix de France à 120 millions, on dit, ouais, déjà, c'est super cher. Ouais. Les gens, ils gueulent, ouais, on va payer les trucs, tout ça.
Et il va perdre 140. Son record.
Ouais.
Parce qu'on le sait, il va perdre son record.
Oui, avec Abu Dhabi.
Avec Abu Dhabi.
Non, je ne parlerai pas de ce circuit, non.
Donc, c'est un circuit où il faut de l'appui, parce qu'il y a quand même des virages pas spécialement super serrés, mais quand même.
Il y a des virages.
Oui, il y a des virages.
Ils en restent en
Et une bonne motricité. Forcément, avec les lignes droites. Je crois que le chiffre, c'est 19 ou 20% rien que pour la ligne droite.
Ouais.
Donc, bon moteur.
Mais en plus, enfin, voilà, enfin, on va rentrer dans le vif du sujet de ce circuit. C'est un circuit fait par Herman Tilke. Donc voilà, on lui reproche souvent beaucoup de choses. Moi, j'ai justement dit dans la dernière émission que j'avais pas grand chose à lui reprocher. Voilà, il fait les circuits qu'on lui demande. Et là, pour le coup, j'ai à la fois envie de taper sur Tilke, mais en même temps pas trop envie parce que on sait que c'est le gigantisme à la chinoise, ils ont voulu faire un circuit gigantesque, ils ont voulu se la péter grande taille, etc., comme savent faire les Chinois. C'est très bien réussi, c'est un beau circuit avec de très belles installations. Apparemment, le paddock avec le petit étang derrière est un endroit très agréable. Après, le circuit, ils ont voulu apparemment retracer dans le circuit l'idéogramme champ de Shanghai. C'est ce que j'avais entendu à l'époque.
Ils disent que ce serait qu'une coïncidence.
Ouais, bon.
Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup.
Mais en tout cas, voilà, ça. En dehors de la première partie qui est très intéressante, comme tu l'as dit, parce que t'as plusieurs manières de le prendre, et puis parce que c'est tout le temps en aveugle, pour les pilotes, tous les pilotes ont adoré dès qu'ils y sont rentrés. C'est vrai que c'est un endroit assez étonnant. Il me rappelle un petit peu l'un des derniers virages de l'infield de Indianapolis. Une succession de virages très serrés, sauf qu'ici c'est vraiment accentué et apparemment il y a sur des projets du Grand Prix de France, le projet Val de France, il y a aussi des petites idées comme ça de faire des virages qui se resserrent, qui vont loin comme ça. Donc ce virage là, moi c'est peut-être l'un des meilleurs qu'ait fait-il comme virage. Après le restant du circuit, voilà, c'est un circuit.
C'est plus classique.
C'est des grandes courbes, c'est pas super passionnant. Il y a, on va dire, deux zones de dépassement, la petite quéquette et puis l'escargot. Voilà, il y a un endroit qui est plutôt sympa. Oui, c'est à la fin, c'est c'est l'entrée du banking qui est assez intéressante. La longue ligne droite qui permet d'arriver sur une épingle, un peu comme la Fuji, qui justement là a une opportunité de dépassement. Et puis bon ben voilà le reste. L'entrée des stands est très bien. Moi je l'aime bien, mais voilà, bah c'est autant je défends Tilke qu'autant c'est sans doute l'un des nouveaux circuits sur lequel j'adhère le moins.
Moi j'aurais dit le contraire, tu vois.
Ah bon? Oui. Pourquoi?
Oui. Je sais pas, bah justement, ces virages là, je les trouve intéressants, c'est pour ça. Par rapport à d'autres,
ouais, c'est vrai. Voilà,
c'est ça, quoi. C'est par rapport à d'autres. Sur ce Bahreïn, par exemple.
Faut aussi dire que juste avant l'enregistrement, tu m'as reproché de. Un certain truc, c'est que je n'aime pas Shanghai, et pourtant, j'adore le Hungaroring.
Oui! Car vous avez ici le seul homme qui aime la F1 et qui aime aussi la piste du Hungaroring.
Eh ben oui, voilà, hein. Je fais mon coming out. J'assume. Hein, voilà, j'adore cette piste. Surtout parce que c'est l'une des seules où je bats les records dans F1 Formula One Grand Prix, machin. Donc voilà. Les récents vainqueurs, donc c'était cette année la 5e édition.
Oui, c'est un circuit récent.
Le premier vainqueur, ça avait été Rubens Barrichello devant Jenson Button et Kimi Raikkonen. S'en était suivi. Ça, c'est le Grand Prix du Japon 2004, ça nous intéresse pas.
En 2005, c'était Alonso qui s'était imposé en Chine.
Devant Raikkonen et Schumacher.
Ouais.
Mais attention, hein, l'autre.
L'autre.
Celui dont on se rappelle pas. Ouais. En 2006, c'était Schumacher, mais celui dont on se rappelle. Devant Alonso et Fisichella. L'année dernière, ça avait été, donc on s'en souvient, Kimi Raikkonen, devant Alonso et Massa. Une domination, enfin, on disait que c'était le jardin de Ferrari.
Ouais, est-ce que sur 4 courses, 3 victoires Ferrari quand même?
Bon, on a quand même pu remarquer quand même que l'année dernière, la McLaren n'y était pas trop mal. Enfin, surtout celle de Lewis. Alonso, ça avait été un peu plus discret, mais Lewis avait été bon. Puis il a confirmé cette année que c'était pas trop mal, donc.
Bah, la voiture, oui, ses pneus.
Voilà. Ouais, c'est l'année dernière, vraiment, il a perdu. sur une mauvaise gestion de la course, quoi.
Voilà.
Donc bah voilà, pour présentation assez rapide du Grand Prix de Chine. On est assez partagé sur, enfin moi je suis partagé sur ce Grand Prix, toi tu es partagé par rapport à moi sur ce Grand Prix. Nous sommes partagés, partageons,
voilà,
partageons tous ensemble. C'était donc une course qui est l'avant-dernière course du championnat.
Oui.
Voilà.
Et où les titres pouvaient tomber pour la première fois là vraiment.
Oui parce
y avait
que
la possibilité.
Voilà. Mais je crois, si je me trompe pas, que si un titre tombait, l'autre ne pouvait pas tomber. Puisque par exemple,
oui,
si le titre de Hamilton, si Hamilton était titré, il marquait suffisamment de points pour empêcher le titre de Ferrari chez les constructeurs. Et si Ferrari était titré, ça empêchait le titre d'Hamilton en pilote. Puis au final, il n'y a aucun des deux titres qui s'est joué véritablement sur cette course. C'est pas plus mal.
Au niveau du classement, Hamilton avait 84 points, avait 5 points d'avance sur Massa. Donc marquer 5 points de plus, c'était toujours une possibilité. En cas d'une victoire à 10 points, ça voulait dire que Massa ne devait pas faire mieux que 5e, hein, parce que s'il faisait 4e, ils se retrouvaient à égalité de points.
Et Massa avait potentiellement une victoire en plus en comptant le Brésil.
En comptant peut-être le Brésil. Et chez Ferrari, ils avaient 142 points avec 7 points d'avance sur McLaren.
Voilà.
Donc il aurait fallu marquer 11 points.
En sachant en plus que voilà, un doublé McLaren cette saison, ça a été plutôt rarissime. Mmh. Un doublé McLaren au Brésil, il faut vraiment une catastrophe pour que ça arrive. Donc voilà, on peut dire que Ferrari aurait quand même pu s'assurer le titre, pas mathématiquement, mais en ayant 12 ou 13 points d'avance, ça aurait pu être quasiment assuré.
Oui.
Voilà. Quoi qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas à l'abri de au Brésil, on ne sait jamais. Hein.
Oui, voilà.
Voilà, c'était pour le classement donc pilote et constructeur au lendemain du Grand Prix de Fuji. Mmh. Un Grand Prix de Fuji qui pouvait laisser des marques.
Oui.
Et après
c'est passé qu'une semaine et pourtant ça a beaucoup discuté sur Hamilton. Donc vous vous souvenez, hein, Fuji, Hamilton, lors du départ, avait eu une manœuvre assez limite. Il avait été pénalisé. Et forcément, alors comme en plus, les leaders du championnat et tout, forcément, il commence à attirer autour de lui les critiques un peu négatives.
Les deux, hein, les deux ont été limites, mais c'est vrai qu'Hamilton a été a perdu un peu patience, je pense, au départ. Massa a totalement paniqué derrière. Et donc, voilà, c'était un climat quand même qui était tendu, surtout qu'on a eu cette semaine des déclarations par presse interposée où Hamilton reprochait à Massa de l'avoir percuté volontairement, où Massa essayait de se défendre.
Donc, voilà, a parlé.
Ah bon? Oh, qu'est-ce qu'il a dit?
Bah, il a dit c'était la faute à Lewis. Que
oui.
Il lui avait niqué sa course, quoi.
Le salaud.
Ce qui est vrai, mais voir Raikkonen parler, c'est tellement rare.
C'est comme sourire, hein. Raikkonen, quand il parle, faut être là, faut avoir un micro.
Et, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, ça existe.
Voilà, hein, il parle, hein, voilà. Pas souvent.
Il parle, il sourit, il fait le con.
Et le truc, c'est qu'il parle plus facilement bourré. Et là, il n'y a pas de caméra. Ce mec, il a une réputation quand même incroyable.
C'est le nouveau James Hunt. Voilà.
Donc voilà, c'est encore une fois, c'était un Grand Prix sous tension, un peu plus sous tension parce qu'il y avait eu ces fameux incidents au départ, etc. Au Japon, des déclarations un peu des deux côtés. Bon, ça fait quand même plaisir à voir. C'est con à dire, mais c'est vrai que ça donne un peu de piquant au championnat. Voilà, c'est un petit peu ce qui a rendu la saison 2007 belle, c'est qu'il y avait aussi des déclarations dans la presse entre Hamilton et Alonso, il y avait ce piment-là, et que ça a fait bouillir un peu les marmites, et on a vu ce que ça a donné au final. Là, apparemment, ça fait un peu pareil, mais la cuisine s'annonce pas la même. C'est-à-dire la théorie du troisième homme. Là, je sens que tout le monde est perdu dans ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire de cuisine? Ce mec est en train de faire un Scooby-Doo devant son micro. Parce que voilà, on parle du Grand Prix de Chine quand même, hein. Il nous parle de Chine en mélangeant de la Formule 1. Mais c'est quoi ce truc? Oui, je l'avoue, je bois du café. Voilà. Je picole du café.
Tiens, on enregistre le soir en plus.
Oui, oui, alors généralement on enregistre jeudi après-midi. Voilà. Et là, on n'était pas motivés.
Voilà.
Donc on s'est dit, on va enregistrer ça le soir. Et là, à l'heure actuelle, il est 21h25.
Exactement.
Voilà. Mais précisons, donc, il n'est pas 21h25 réellement. 21h25, à l'heure où on enregistre. Voilà. À l'heure où vous écoutez, ça se trouve, vous êtes à la bourre. D'accord ?
C'est vrai.
Ou alors, pour Enzo, Rhys, c'est déjà fini. Voilà. Hein. Non, parce que Enzo, là, à ce temps-là, il est devant Rhys. Il fait croire qu'il fait des dessins, mais non, il est devant Rhys.
Ah, d'accord. Donc lui, il boit du café et moi, je digère un gratin de pâtes.
En parlant des exploits d'Hamilton, ça va être voilà. La casse.
C'est exactement ce que je lui ai dit, ouais.
Comment on rejette dans l'émission tout ce qu'on se dit avant? Faut savoir, on parle énormément avant, hein. En fait, on fait l'émission avant. Voilà. Après, voilà. On garde le meilleur. Voilà. Et là encore, il y a des chutes.
C'est vrai.
Donc, pour la Chine, on avait pronostiqué quoi?
Moi, j'avais pronostiqué Massa. Parce que les Ferrari marchent bien, et puis bon, bah, Massa, il joue le titre. Donc, il a besoin de points, donc de victoires.
Moi, j'avais pas pronostiqué un truc genre.
Toi, t'avais pronostiqué un truc à la con, bien évidemment.
Ah, mais j'avais pas mis Raikkonen.
Oui.
Raikkonen et Kubica. Kubica, on a vite compris que c'était pas la peine d'y penser.
Non. Ouais.
Mais Raikkonen, ça aurait pu, hein. C'est dommage qu'il ait eu ce problème mécanique en plein milieu de la course.
Il a eu, oui, ce soudain sommeil.
Ouais, voilà, il s'est endormi à un moment
donné. Étrange et.
Puis Felipe s'est pas vraiment réveillé.
Non, voilà, ça c'était quand même plus inquiétant.
Donc là, on sent bien qu'on est en train d'avancer sur la course. On a envie de dire des choses quand même sur cette course parce qu'il y a quand même.
Mais on va en parler.
Donc, allons vers la grille de départ du Grand Prix de Chine. Et là, pour une fois, je suis dessus.
C'est bien. Enfin, je peux rien dire, moi,
maintenant. Donc, on va... Bah non, je suis pas dessus. Parce qu'en dernière ligne, j'ai saccogné ma moto sur la Spyker Ferrari.
Ah oui.
Je suis à la masse. Hop, 2008, c'est peut-être mieux.
2008.
Voilà, je suis désolé. Hein. C'est, voilà, c'est le café n'agit pas encore. Mais c'était déjà Hamilton en pole l'année dernière. Donc, à la limite... J'aurais pu reprendre la même grille, ça n'aurait rien changé. Donc, grille de départ, si on part du début ou de la fin?
On peut partir de la fin.
Ah bon, on va partir changer. De la fin. Donc, en 20e position, Giancarlo Fisichella. Voilà.
Bah, Forcilla dernière, voilà quoi.
Attention, 17e, Adrien Sutil. Tada. 19e. Oui, 19e. Ah, ils sont 20 sur la grille. Allez, non, ça change. Ensuite, on avait Button, 18e. Nakajima, 17e sur sa Williams Toyota. Les deux Red Bull faisaient un tiers groupé en 15e et 16e position.
Attention, alors, 16e Weber, il a été rétrogradé 10 places.
Voilà. C'est vrai qu'il avait été devant. C'est des trucs que je lis. Ah, faut que je les lise, les lignes d'en bas, merde.
Et oui, il y a des lignes en bas.
Ah, d'accord.
Weber, 6e, a été rétrogradé de 10 places pour changement de moteur.
Et en plus, David Coulthard a été gêné par Nick Heidfeld.
Oui.
En même temps, bon, ça, on va rien dire. Ouais. Rosberg, 14e, se classait juste derrière Rubens Barrichello. Ouais. Bonne perf pour Barrichello.
Oui, bah oui, pour parce un Honda.
C'est...
Devant les Toyota, devant les Williams.
C'est en Q2, c'est ça, ouais, ça c'est de la Q2.
Ah oui,
devant Button, c'est vrai que on a quand même senti ces derniers temps Barrichello un peu plus saignant. En même temps, hein, c'est comme toujours, hein, lorsque sonne l'heure triste et funèbre de la fin.
Il essaie de sauver sa place.
Voilà. Hein. Ah ouais, mais et, apparemment, d'après les déclarations, puisque Petrobras a quitté Williams pour aller chez Honda. Un pétrolier qui va dans une écurie colo, ça me fait rire. En disant, attention, on a une condition, c'est qu'on veut un jeune talent brésilien. Moi, je suis sûr que Barrichello, il a compris que c'était pour lui. Hein. Moi, je suis sûr, hein, parce que si Piquet, il croit que c'est lui, alors Barrichello...
Ah ouais.
Dire que c'est le nom de Piquet qui circule. Oh la vache.
Mais non, tu sais très bien que c'est un autre. C'est l'autre.
Oui, voilà, ouais.
C'est Néo, c'est l'élu.
C'est Bruno.
C'est le fils de Dieu.
Voilà, le neveu de Dieu.
Même si c'est son neveu.
Alors, en deuxième position, on avait Timo Glock sur sa Toyota. Timo Glock qui rentrait un petit peu dans le rang après ses derniers Grands Prix.
Un peu moyen.
Voilà. Alors, en même temps, c'est vrai qu'ils ont un peu pris un coup de massue au Japon sur le derrière de la tête. Les pauvres, ils n'ont pas fait forcément un bon Grand Prix. Et puis, en plus, ils se sont fait larguer définitivement au championnat par Renault. Surprenant 11e, Robert Kubica, qui apparemment s'est foiré dans ses plantages.
Enfin, oui, il a eu du mal à régler sa voiture.
Ils ont eu du mal à régler sa voiture. Ils ont tenté, va savoir pourquoi, des réglages radicaux en plein milieu de la qualif.
Oui.
Il a fait 3 tours. Ils se sont dit, ah, apparemment, c'est pas les bons réglages. On va peut-être les changer. Alors, ils ont changé. Voilà, c'est une 11e place. Alors, en plus, c'est ce que disait Robert au soir de la qualification, avec le règlement qui fait qu'on ne peut pas changer les réglages sur la voiture avant le premier ravitaillement. Il s'attendait quand même à passer une course pénible, et ça on en reparlera pour la course, je pense. 10e, Nelson Piquet.
Ouais.
Alors attention, Piquet ne s'est pas qualifié en Q3.
Oui, hein, bah oui.
Il faut rendre à Nelsinho ce qu'appartient à Nelsinho. Hein. Puisque, comme Weber a été déclassé de 10 places pour changement de moteur, Piquet était 11e et passé 10e. Mais non, Piquet n'était pas qualifié en Q3. Hein. Revenons un peu sur Terre. Nick Heidfeld, une fois n'est pas coutume, s'est classé 9e après avoir fait le 7e temps et avoir été rétrogradé 2-3 places. Mais en avoir gagné une grâce à Weber.
Oui,
c'est à un moment donné, on ne pisse plus rien. Hein. C'est... bonne qualification pour le petit français.
Oui, 8e.
Voilà notre débutant. Bourdet. Encore une fois, sans doute avec une stratégie lourde, qui finit à un peu plus d'une seconde de son coéquipier. C'est une belle performance pour Bourdet. Trulli 7 sur sa Toyota, comme d'habitude. Hein, Trulli, qualification.
Toujours bon en qualif. Ouais.
Vettel. Comme d'habitude, Vettel. Voilà, 6e.
Si ça devient une habitude.
C'est, voilà, 6, c'est sa place en ce moment cette année. Je crois que ça doit être sa place moyenne. Kovalainen, 5.
Oui, lui aussi, ça devient une habitude.
Parce que malheureusement, derrière Hamilton, Raikkonen, Massa et Alonso qui est en forme en ce moment, c'est vrai que Kovalainen a un peu de peine.
Voilà.
Alonso, qui s'est qualifié 4. Bon, sur l'ensemble des essais, Alonso était pas, enfin la Renault était pas, ils espéraient faire le triplé des courses asiatiques.
Ouais,
et puis on a vite compris que c'était pas faisable, qu'ils allaient faire une bonne course, une bonne qualif, mais que voilà, les Ferrari étaient à un ton au-dessus et que la McLaren était 2-3 tons au-dessus. Massa 3e, à la régulière derrière Raikkonen.
Ouais, il faisait quand même une belle tête d'enterrement à la fin de la qualif. Ouais,
il était bien il s'est quand même pris 5 dixièmes
en course
par Hamilton. Hamilton fait la pole donc en 1:36.303 devant Kimi Raikkonen. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que Hamilton colle 5 dixièmes à Massa en ayant, je crois, 5 tours de plus d'essence.
Il avait 5 tours de plus d'essence.
Donc,
honnêtement, avec des temps comme ça, quand on savait pas avant la course, moi-même, je pensais que Massa était plus lourd avec une stratégie vis-à-vis de Raikkonen et tout ça.
Pour de toute façon.
Quand on a vu Massa rentrer au stand et Hamilton n'y aller que 5 tours plus tard.
Moi, je t'avoue que personnellement, j'avais déjà un peu fait une croix sur ce Grand Prix depuis les essais, puisqu'on avait clairement vu depuis les premiers essais. Moi, je me suis réveillé. Je voulais tenir pour regarder. Juste pour l'émission, je me suis dit, ouais, faut que tu tiennes, faut que tu restes toute la nuit pour pouvoir voir les essais. Bon, je me suis endormi, j'ai vu que les résultats le lendemain. Mais bon, j'ai rapidement pu voir dans le résumé que Hamilton avait dominé les séances d'essais, qu'il n'y avait strictement rien à dire. Raikkonen s'en sort en face, mais là encore, Raikkonen il est à 3 dixièmes. Cette saison, c'est vrai qu'on a vu des écarts cette saison qui étaient plutôt serrés. Des pôles qui jouaient au système, etc. Puis là, c'est vrai qu'on a une pôle.
Au Japon, je me rappelle que c'était très serré. Hein.
Voilà.
Une chose genre une dizaine de voitures en une
Voilà, et puis là on
C'est
voit des écarts
incroyable.
assez importants puisque à part les Nelson Piquet, à part Nelson Piquet où c'est en 1,35 parce que c'est la Q2, mais c'est vrai que quand on regarde entre Nick Heidfeld qui est le dernier qualifié de la Q3 et Hamilton, il y a quasiment un peu plus d'une il y a une seconde quoi.
Ouais.
Et puis les écarts sont assez entre Raikkonen et Heidfeld, mais Hamilton c'est
Oui,
2 ans.
vraiment,
Et c'est d'ailleurs ce qui rend incompréhensible la performance de Kovalainen. Clairement, la McLaren était meilleure ce week-end. Et Kovalainen ne fait que cinquième derrière les deux Ferrari et la Renault d'Alonso.
il a raté la quatrième place pour 3 millième.
Ouais. Mais
Quand même.
voilà. Moi, Kovalainen, c'est un peu ma déception de la fin de saison. En ce moment.
Ah, moi, j'irais même de la saison.
Non. Moi, je pense qu'il a. Comment dire? Moi, je suis un fan de Kovalainen. J'adore ce pilote.
Échec, mais c'est vrai
Plus.
que.
Voilà, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans la bonne équipe. Faut être honnête. On en avait parlé à Fuji. Il est dans une équipe où, voilà, Hamilton fait une bêtise au premier virage de la course. Il fait un écart que son coéquipier est obligé d'éviter. Et à la fin, le patron dit, ah oh, ben je comprends pas pourquoi on gueule. Hein. Ouais, bah va d'abord demander à ton deuxième pilote quoi. On se demande même si chez McLaren, il se rappelle qu'il y a un deuxième pilote quoi. On parle beaucoup de Vettel et Bourdais. Il y a des photos. Moi, je voyais sur un blog. Ils avaient comparé la visite du circuit. Alors, on avait Vettel avec une dizaine de mécaniciens et on avait Bourdais avec deux mécanos. Et j'imaginais exactement la même photo pour Hamilton et Kovalainen, quoi. C'est le truc. J'en viens même à me dire que c'est peut-être même pire à l'époque où il y avait Schumacher. On a vraiment l'impression, enfin c'est mon
Ouais.
impression, j'ai vraiment l'impression chez McLaren qu'il n'y a entre guillemets qu'une voiture qui compte. Et en plus, quand on a un patron d'équipe qui se permet de dire après la course de Chine, oui, nous le titre constructeur nous intéresse pas, c'est le titre pilote qu'on vise. Là, on se dit ouais, effectivement, tu dois te sentir bien dans ton équipe. Donc voilà, ça, bon, on était au courant que Hamilton c'était le bébé maison, etc. Mais je trouve que ça a pris. Ça a pris une dimension, Hamilton est trop omniprésent, et le jour où Hamilton va avoir un pépin, va se blesser ou un truc comme ça, j'ai peur que ça soit vite derrière et que McLaren vive une mauvaise passe.
C'est vrai.
Si Hamilton fait. Ça peut arriver, hein, et puis.
C'est même pas que ça peut lui arriver, ça lui
Ça lui
arrivera.
arrivera. Voilà, ce mec, c'est un génie de la F1, enfin voilà, c'est génie de la lampe, quoi. Il est arrivé, on a frotté sa voiture. Ouh, dis donc! Un Hamilton, c'est beau! Et voilà, mais ça lui arrivera à un moment donné, comme c'était arrivé à Schumacher à l'époque, et on n'a pas
Oui,
l'impression
voilà.
on a l'impression, en fait, que s'il arrive quelque chose à Hamilton, on va se
Il n'y a
retrouver
plus rien.
avec Kovalainen, et puis que, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a plein de trucs à faire. On va avoir les mecs de McLaren qui vont courir dans tous les sens pour essayer de trouver comment satisfaire Kovalainen pour le titre. S'ils ont envie de satisfaire Kovalainen pour le titre. Enfin,
C'est vrai.
voilà, c'est pour ça que moi, il me fait mal, Kovalainen, parce que c'est un bon pilote qui a montré des belles choses en début de saison, mais aussi la saison dernière, notamment au Grand Prix du Japon, et là, qui est totalement transparent. Et je préférais, à la limite, le voir chez Renault, ou chez, même dans une petite équipe, genre, je sais pas, Honda, ou Red Bull, plutôt que de le voir, comme ça, la VGT chez McLaren. Qui mettent leur troisième là, Paul Di Resta là qu'on connaît pas du tout, qui vient du DTM, plutôt que voilà de sacrifier un bon pilote comme ça. Voilà, ça m'énerve. C'est mon moment
Ouais.
coup de gueule.
Non, t'as
Donc
raison.
alors on l'a trouvé la statistique qu'on vous parlait la semaine dernière,
Ah
le
oui.
rapport des pôles entre les deux pilotes. Donc, ce qu'on a remarqué en plus en les comparant ces statistiques, c'est que on s'est rendu compte que majoritairement en Chine, tous ceux qui dans la statistique, donc au nombre, enfin à la place sur la grille, les mieux placés tout au long de la saison, tous ceux qui avaient pris l'avantage au cours de la saison, avaient été un peu en retrait et s'étaient fait en fait dépasser par leur coéquipier.
Un certain nombre, pas tous, mais...
Voilà, pas tous, hein. Chez McLaren par exemple, c'est pas la peine. Chez Renault non plus.
Non.
Mais donc voilà, ça qu'on s'est rendu compte que globalement, c'est plutôt ceux qui étaient en retard qui ont marqué un point contrairement aux autres. Donc en statistique, on a un rapport chez Ferrari. Massa s'est qualifié 11 fois mieux que Raikkonen et Raikkonen s'est qualifié 6 fois mieux que Massa. Donc voilà. Chez BMW, on a un rapport de 13 pour 4 en faveur de Kubica.
Logique, ouais.
Voilà. Et les 4 sont marqués assez récemment pour Heidfeld. Chez Renault.
Ça, c'est un chiffre.
Chez Renault. Alors là, on a le seul hein, du plateau, d'ailleurs, c'est 17-0 pour Alonso. C'est voilà. Alors que à un moment donné, il faut quand même rappeler qu'au classement général, Piquet était devant.
Était devant, ouais.
Voilà, il avait fait un podium, il avait 8 points. Alonso, on avait 6 ou 7, je crois. Entre-temps, ça a changé. Mais voilà, 17-0, ça parle. C'est le genre de statistique qui fait mal. Puis en plus, on s'amusait à faire le nombre de places d'écart moyen.
Oula.
Là, je pense qu'on verrait. Là, on n'a qu'à voir, quoi. Alonso, 4e, Piquet, il fait 11e. Là, ouais, je pense qu'on descendrait. Chez Williams, on a pas de surprise, hein, un rapport plutôt à l'avantage de Rosberg, 13 contre 4. Chez Red Bull, là, pareil, pas vraiment de surprise. On a un rapport de 14 pour 3 à l'avantage de Weber.
Ouais.
Chez Toyota, mais qui c'est qui est le plus rapide chez Toyota?
Bah, c'est Trulli.
Ah voilà, c'est Trulli. Un rapport de 13 pour 4 face à Glock.
Ouais.
Chez Toro Rosso, on avait tel qui est devant, avec un rapport de 12 pour 5. Chez Honda, la surprise.
Ah oui, ça c'est une surprise aussi.
Ça c'est la surprise. On a un rapport de 9 contre 8 pour Barrichello. Voilà, c'est bon, il doit y avoir
ils étaient à 8-8 avant la Chine.
Voilà, et donc Barrichello a, comme il a fait une track, il a fait une très belle qualification, a amélioré pour moment se classer meilleur dans cette petite statistique. Fisichella devant Sutil 9 contre 8.
Là aussi c'est serré.
Là pareil, ouais. C'est là par contre Sutil avait 2 points de retard, là il a maintenant plus que 1 point de retard. Et enfin, chez McLaren, on parlait de Kovalainen. Il est pas non plus ridicule, hein. Il fait 12 contre 5.
Ouais.
Et bon,
il y a quand même de l'écart, quoi.
Hamilton a quand même été déclassé de une ou deux grilles de départ, je crois. Il a eu quelques contre-performances, donc, voilà. La statistique aurait pu être plus lourde. Et puis, toi, tu avais donc, un petit chiffre intéressant sur les pole positions concernant, McLaren et Mercedes.
Alors, c'était donc la 141e pole position pour McLaren.
Youhou.
Et la 70e pole position pour Mercedes seule. Ce qui fait, je crois que c'est 62 pole positions pour Mercedes avec McLaren. Donc, ça veut dire 62 pole positions McLaren-Mercedes sur 141.
Ouais.
Tu me suis? Donc, près d'une sur deux depuis 10 ans.
Et d'ailleurs, autre statistique, on en avait parlé un peu avant, je crois que c'est un peu avant le Grand Prix, assez impressionnante, c'est le nombre de pole positions de Hamilton, qui a déjà 13 pole positions chez McLaren. Si on compare avec Senna, qui devait en avoir avec McLaren, je pense, 40-50,
oui.
C'est un très 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 bon ratio de pole position. Donc, félicitations, monsieur Mercedes! Si vous nous écoutez.
Oui.
Hein, bravo. Wouhou. Mercedes. Là, Enzo, il est mort. Ça y est.
Tu ne crois pas en ce que tu dis, je le sais.
Enzo, là, il est en train de dire, Dino m'a tué. ER. Le tuer, ER.
Une petite étoile.
Repose en paix, Enzo. Ah, je vais me faire tuer par les visiteurs du blog. On n'a plus nos dessins. Mais je veux bien les faire à la place d'Enzo, mais ça ne me dérange pas, mais vous les voulez pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, on est en live total. On n'a vraiment rien à dire sur ce Grand Prix.
C'est vrai, hein, franchement.
Donc, la course partait dimanche matin à 9h, heure française.
Oui, heure française, oui.
Ouais. Après la course nocturne, la course avec un petit peu de brise le matin. Voilà, donc la course, ton top flop, comme d'habitude.
Le classique top flop. Alors, comme d'habitude, qui est le premier top? Le premier top, c'est le vainqueur de la course.
Oui, alors d'ailleurs, on a un reproche. J'aimerais voir ta réaction en direct live, comme ça. On a un reproche d'un de nos téléspectateurs, enfin d'un de nos auditeurs.
Auditeurs.
L'un des deux, le garçon, la fille, Quoique, on espère être plus prochainement. Alors, je te lis le mail qu'il m'a envoyé, c'est Enzo, de enzof1.com. Donc, ouais. Bonjour Enzo. Ne trouvez-vous pas que cela est un peu facile de faire un top flop où, je cite, les trois premiers sont les trois premiers? Alors.
C'est-à-dire que quand tu finis sur le podium, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur dans une course.
Oui, mais quand même.
A priori, enfin, y a une logique. Je veux dire, je vais pas mettre par exemple un vainqueur de course en flop.
C'est vrai.
Tu comprends?
C'est vrai.
C'est que si je mets un vainqueur de course en flop, c'est que vraiment, il y a un problème.
Mais par exemple, là, je reprends le mail d'Enzo, mail totalement imaginaire que j'improvise au fil de ma lecture, qui continue derrière, parce que là, il te gratine, Enzo, hein. Allô. Et qui dit, est-ce normal que Kimi Räikkönen soit placé dans les tops, alors que bordel de merde, il a une Ferrari, alors qu'il pourrait niquer la gueule à la Renault et la BMW? Je résume. Désolé, je dévie un peu tes propos. Hein.
Vas-y,
je
résume.
Mais voilà, est-ce que c'est normal de mettre Räikkönen alors qu'il a une Ferrari, mince, juste croix de flûte.
On va pas lui reprocher d'avoir une des meilleures voitures du plateau. Si il abandonne, je le mets en flop.
C'est vrai.
Hein, j'hésite pas à mettre une Ferrari ou une McLaren en flop.
Des fois, il a abandonné, il était top.
Ah non.
Bon, oui.
Ah bon?
Ah, c'est pas, bon, il abandonne, un peu comme une merde, mais il était top quand même dans la course.
Bah, c'est...
Non, ouais. mais il abandonne à cause d'un brin d'herbe, oh là là, c'est bon.
Mais dans ces cas-là, je le mettrai pas dans les tout premiers tops.
Ouais, voilà, tu mets dans... c'est un petit top.
Voilà, c'est un petit top, parce que, bon, quand tu fais pas la course, bon. C'est bon?
Alors, on va devoir couper. Incident technique, parce que on me dérange une seconde.
Celle-là.
C'est quoi?
Celle-là.
Pourquoi faire?
Pour couper les cheveux.
Ah, ta coupe de cheveux? Alyssa Milano, elle est mieux.
Non, c'est ce que
je préfère. Voilà. En même temps, Alyssa Milano.
Oui.
Depuis Madame est servie, je suis amoureux d'elle, donc. Donc voilà, ça sera pas coupé au montage pour la peine. Voilà. J'ai aidé ma mère à choisir sa coupe de cheveux. Voilà, parce que demain, elle a rendez-vous à 10h chez la coiffeuse, donc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on disait? Ça tombe bien, arrêtons cette polémique sur ton top-flop, hein, cause de ce méchant d'Enzo, là, qui nous critique, hein.
Ouais. Surtout que là, en plus, vous allez voir que l'ordre est pas...
Ah, là, en plus, voilà.
Il y a une petite subtilité.
Et voilà, il y a des petits détails comme ça.
Deuxième top.
Ah non, bah non, le premier d'abord.
Ah oui, non, tu m'as troublé en plus avec tout ça.
Ah mais moi je veux bien.
Qui est le vainqueur du Grand Prix?
Je veux bien qu'on évite de parler du premier top. Hein.
Ça veut dire... En même temps.
De toute façon, en même temps, il n'y a pas grand chose à dire, on a déjà dit ce qu'il fallait dire.
Bah, il a gagné la course. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Bah, il a dominé les essais, il a dominé les qualifs, il a dominé toute la course.
Voilà.
Comme t'as dit, il était sur notre planète.
Alors, de retour sur le service après-vente de la Formule 1, après une petite coupure, faudrait que je trouve un truc de publicité pour mettre dedans.
Hein. Ah ouais.
Genre, avec le service après-vente de la Formule 1, vous avez droit à deux bonbons gratuits.
Ouais. Ah non, arrête, il va falloir les filer après les bonbons.
Ouais, c'est vrai. On est des gros radins, on les mange nous tout seuls. Donc voilà, hein, faut qu'on explique, on a une très jolie ingénieur son, Pamela. voilà, qui, et de temps en temps, on oublie de la regarder, et au bout de 15 minutes, elle s'arrête toute seule. Voilà. Ouais. Ça coupe. Donc, voilà. Là, elle nous l'a coupé, encore une fois, il y a un truc contre Hamilton dans cette émission.
Ouais.
Comme par hasard, ça coupe au moment où on parle d'Hamilton. Je voyais sur le site de Jean-Louis Moncey, il disait, ouais, c'est super. Il s'étonnait qu'en fait, que les gens ne réagissent pas, à la performance d'Hamilton. Bah c'est vrai que en même temps qu'est-ce qu'on peut dire quoi, c'était pas passionnant à regarder.
Oui voilà, en plus c'était pas.
Oh, c'est un peu comme à Fuji quoi, à Fuji.
Extraordinaire.
À Fuji, Alonso a un peu dominé les débats et on l'a très peu vu en fait en course parce qu'on s'occupait de ce qu'il y avait derrière. Là c'est pareil quoi, Hamilton.
Alors que l'opposé par exemple c'est Silverstone.
Oui.
Voilà où il domine et là. Voilà quoi. On aurait pu en parler.
Des heures. Là, c'est vrai que. au moins 1h30, 1h40.
Facile.
Mais là, c'est vrai que franchement, on est désolé. On le met dans les tops.
Oui,
parce
oui.
Parce que ça mérite un top et même
ça mérite.
Un giga top parce que faire une course comme ça, voilà. Mais après. Oui, il fait un hat-trick, ouais.
Deuxième top, c'est Kimi.
Quoi ?
Il est sur le podium.
Quoi ? Tu as mis le troisième ?
J'ai mis le troisième.
Avant le deuxième ?
Avant le deuxième.
Kimi qui est tellement fort que quand même il ralentit, il n'arrive pas à se faire rattraper.
C'est vrai. Il est talentueux, Kimi. C'est même quand il est lent, il est rapide.
Ah ouais, non, mais c'était... Puis moi, j'ai bien aimé Kimi. Enfin, Kimi a clairement, sur toute la course, a dominé Massa.
Ah oui ?
Bon, il le laisse. En plus, c'est un double top, je pense aussi, parce que c'est un top au niveau de la performance.
Oui, il revient en forme.
Mais aussi, c'est aussi un top au niveau de l'esprit d'équipe.
Voilà, tu te souviens que j'avais un peu dénoncé ça. J'avais...
Oui, t'avais milité. Pas...
Notamment à Singapour, j'avais trouvé qu'il n'avait pas assez joué l'esprit d'équipe. Là, pour le coup, il n'y a aucun problème.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver la pétition qu'avait fait signer à tout le monde sur son blog. Hein, le bloc inutile de Shinji. Hein, voilà, il n'y a pas de pétition, mais comme ça, on fait de la pub entre copains.
Voilà. Vas-y.
Alors, non, mais après, j'ai tous les copains qui m'ont appelé. Ouais, il faut que tu fasses de la pub pour mon site, etc. Non, on ne fait pas de pub de site pornographique. Hein. Et on prend les adresses. On est des mecs, hein. On est désolé.
Ouais.
Donc, ouais, et puis, moi, j'ai bien. Il y a une image que j'ai adorée. Voilà, et quand j'ai regardé la course, on a quand même vu, moi j'ai calculé, j'ai enregistré le Grand Prix et j'ai repassé la bande vite fait. Et il a mis 11 tours, Massa a dépassé Raikkonen.
Oui.
Donc là, c'est vrai que pour le coup, ça faisait, voilà, ça faisait petit trafic entre coéquipiers, même petit trafic clair. C'est pas genre, oh tiens, bizarre, j'ai un problème de roue. Un truc au stand ou oh dis donc j'ai perdu une vitesse.
Non voilà.
Non, voilà, là ça a été c'était visible, tout le monde le savait, mais au moins c'était fait avec un certain respect pour l'audio et c'est même devenu une source de suspense en se demandant est-ce que Massa va réussir à le passer.
Parce que c'est vrai qu'il a je sais pas si c'était fait exprès mais il a mis un temps.
Il a mis 11 tours. Il a mis 11 tours.
Il aurait pu piler Raikkonen
et c'est puis pas difficile.
Voilà,
Raikkonen a ravitaillé après Massa de mémoire. Donc c'était au 19e tour, donc à partir de là, Raikkonen commence à baisser de rythme.
Ouais.
Et Massa est passé au 8e tour. Voilà. Et un dépassement de toute beauté au bout de la ligne droite. On voit bien Raikkonen qui se range bien le long de la ligne blanche en se disant « je vais me mettre le plus large possible pour que tu puisses passer ». Voilà, c'est-à-dire que vraiment pour le coup, en plus c'est assez drôle parce que on a Raikkonen qui le laisse passer comme un débutant. Et on a donc juste après la ligne d'arrivée, on a Massa qui ralentit parce que je sais pas ce qu'il fait. Il ralentit parce qu'il doit être content. Ouais.
Ouais.
Ouais, j'ai préservé 2 points. Ouais. J'ai réussi à passer Kimi. Et on a Kimi qui passe à côté à toute vitesse. Et pour histoire de rappeler, tu vois, je suis bien deuxième à la base. Donc, moi, j'ai trouvé cette image à mourir de rire. T'avais Massa qui avait quasiment plié la tête et tout, qui était comme ça dans sa voiture en pleine ligne droite. Ouais, qu'est-ce que je fais là? J'ai encore perdu 2 points. Je suis à 7 longueurs. Au Brésil, je vais me faire humilier, etc. Et t'avais Kimi qui passe comme ça. Il aurait pu lui faire coucou en tant que driver. Ça aurait été terrible. Et voilà, on a vraiment senti Kimi qui est
voilà. Il a fait coucou pendant la course, mais pas Massa. Il n'a pas vraiment fait coucou.
Il a fait coucou avec un doigt.
Voilà.
C'est
son doigt de champion du monde à physique là.
Voilà. Donc, il y a ce coucou avec le doigt du milieu, et puis il y a les, je sais pas comment ça s'appelle, ce que fait Alonso quand il gagne. Et pendant des années, on croyait qu'Alonso, il nous disait ta gueule. Il regardait la caméra, et puis il faisait ses deux mains comme ça, façon pingouin, en nous disant
ta gueule. Castagnettes?
Mais en fait, on a appris que c'était les castagnettes. Parce qu'il y en a un jour qui s'est quand même décidé, écoute, Fernando, qu'est-ce que ça veut dire, le ta gueule à la fin? Ah non, mais je dis pas ta gueule, je fais juste des castagnettes pour rappeler aux gens que je suis espagnol.
Espagnol!
Donc, ça m'a fait rire. Donc voilà, c'est une petite image du Grand Prix que je retiens. Voilà. Ça fait plaisir. C'est une course qui s'inscrit globalement dans la continuité du retour en petite forme de Raikkonen.
Ouais.
Qui laisse à penser que l'année prochaine, ça va péter.
Ouais, ça va péter.
Allez hop, troisième flop. Troisième top.
Troisième top, bah c'est Renault. Alors j'aurais pu mettre Alonso, mais j'ai quand même voulu mettre Piquet, parce que Piquet, il marque un petit point.
Ah ouais, en partant de dixième.
Ouais, mais il marque qu'un point.
Ouais, en partant dixième.
Ouais, mais il marque un point.
Les gens sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il a après Piquet? Rien. J'ai juste rien.
Pour saluer le niveau global de la Renault en cette fin de saison.
Bah, coucou, niveau global. non, c'est bien, ouais, c'est vrai que, ouais, voilà, c'est bien.
C'est prometteur pour l'an prochain.
Ouais, justement, c'est ce qui m'emmerde.
C'est ça, voilà.
C'est ce qui me fait légèrement chier. oui, c'est prometteur, enfin, quoique, c'est un peu compliqué parce que, je sais pas, on a quand même sorti que BMW baissait un peu le rythme. Et puis on a surtout l'impression que Renault met tous les efforts possibles pour retenir Alonso et que ouais. Un petit peu à l'image de ce qu'ils avaient fait il y a une année ou deux, bah, c'était le deuxième titre d'Alonso en 2006. Mmh. Ils avaient été jusqu'au bout, au développement jusqu'au bout pour remporter le championnat. Ouais, et 2007, ils avaient eu du mal à suivre derrière. Et voilà, je sais pas si l'année prochaine la Renault sera aussi bonne que ça. J'attends de voir.
Ouais.
Et j'espère, surtout pour retrouver Alonso sur le devant de la scène, quoi. Parce que moi, il m'a fait mal au cœur cette année de le voir se morfondre à la porte des points.
Ouais.
Voilà, j'aime pas le bonhomme, et c'est un champion du monde. Et après sa saison 2007, où il a été traité d'une drôle de manière chez McLaren, là, il a vécu une saison 2008 qu'il a choisie, mais bon... Je pense qu'il s'attendait pas à ça.
C'est drôle, hein, maintenant qu'il est plus en concurrence directe, on l'apprécie de plus en plus.
Ouais, voilà, en plus c'est ça qui est drôle. Donc, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, dans un an, on se donne rendez-vous et je gueulerai encore contre Alonso. Ouais.
Ah, ça sera bon, donc il nous énervera.
M'énerve. Donc, non, mais c'est vrai que Renault fait un bon comeback. Ouais. Mais j'ai un peu peur que ce soit un comeback un peu superficiel.
Ouais, c'est le risque. Donc, autre top. C'est là encore pour l'équipe, c'est BMW qui fait le tir groupé, 5 et 6.
Ouais.
Surtout que, c'est, comme tu as dit, c'était pas évident pour Kubica.
Mais moi, en fait, c'est ça le truc, c'est j'aurais pas tellement mis un top à BMW.
T'as mis un top à
BMW,
Kubica.
Ils ont pas foutu grand-chose. Alors là, changer radicalement...
C'est un top pour les deux pilotes.
Changer radicalement les réglages d'un pilote pendant les qualifs, alors que déjà, le pilote, il se plaint de sa voiture. Ouais. Échanger radicalement pendant les qualifs, comme s'ils avaient jamais trouvé tout au long du week-end le bon réglage. Oh là ouais. Là, donc.
Si je dois préciser, c'est top au pilote.
Ouais, voilà. Ouais, moi, Heidfeld, bah, encore une fois, je l'ai pas vu. On va dire que je suis contre Heidfeld.
Oh, ça m'énerve. Mais il fait 5.
Voilà, il fait 5.
On le voit pas, mais il fait 5.
Voilà, il fait ce qu'il y a à faire avec la voiture, alors que Kubica, avec une voiture qui est mal réglée, qui est mal réglée pendant la course,
ouais, il s'en sort.
Il
s'en sort
bien. Super bonne course, quoi. Moi, franchement, moi, j'étais tombé amoureux de Robert Kubica, enfin, sportivement parlant. En troisième séance d'essai libre à Monaco cette saison, où il avait claqué un temps, mais quasiment parfait, dans des conditions de pluie, et on avait vu tout le tour en caméra intérieure, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ce pilote fantastique, même si je l'avais déjà en très haute estime. Et franchement, là, moi, je vois sa course en Chine, et là, encore une fois, je me dis, ouais, quel pilote, vivement 2010 qu'il arrive chez Ferrari. Petit ouais. Pilote. Voilà, comme ça, je fais sortir, hein, Luca di Montezemolo, hein, Cordero di Montezemolo, hein, tu m'écoutes bien, là, Luca, hein, arrête de te gominer les cheveux et achète Kubica. De toute façon, c'est Kubica qui ira, c'est pas Alonso, faut pas rêver, Alonso, ils en veulent pas chez Ferrari.
Ou Vettel.
Ou Vettel, ouais, voilà, Vettel, Kubica.
C'est Kubica ou Vettel.
Ah merde. Ah, j'ai quand même une petite préférence pour Kubica.
Voilà. Ou alors faut que Kubica arrive et que l'année d'après Vettel arrive.
Voilà, mais même on vient les deux, ouais, là, ça Raikkonen, deux vieux coups, allez hop, direction Force India.
Non.
Ouais, mais non, mais pour Massa, Raikkonen, il ira cultiver de la glace en Finlande.
Ouais.
Voilà, pour mettre dans sa Volca importée de Russie. Donc prochain top.
Alors, un top un peu spécial, parce que je vais mettre ensemble Glock et Coulthard.
Oh.
Pourquoi les mettre ensemble?
Tu mets Coulthard dans un top?
Oui, j'ai mis Coulthard. Alors, il n'a pas marqué de points, c'est vrai. Il est parti 15e, il a fini 10e.
Voilà.
Glock, il est parti 12e, il a fini 7 ou 8. 7e. Et je les mets ensemble pour leur stratégie, puisqu'ils ont fait une stratégie à un arrêt.
Qui apparemment était payante, cette stratégie-là.
Bah, dans les deux dans cas, les, en tout cas, voilà. Ça a plutôt bien fonctionné. 5 places. Voilà.
Mais bon, il y a l'abandon de Kovalainen, l'abandon de Pourli, ça les aide aussi un peu.
Ouais, c'est vrai.
Je suis gentil, là. Je critique pas, je dis rien.
J'ai jamais dit que t'étais tout le temps méchant.
Ah, t'as dit que j'étais pas tout le temps méchant, c'est-à-dire que des fois tu penses que je suis méchant.
Mais c'est normal qu'il faut parfois que tu sois méchant. Parfois
ouais,
t'es
vrai.
Gentil, parfois t'es méchant, parfois je suis gentil.
Ouais. Parfois t'es méchant. Ah oui, t'avais été méchant avec Coulthard la semaine dernière.
Voilà.
Ah, t'avais été cruel.
Voilà. Mais moi je le dis plus. Je suis pas comme toi, je suis comme un énervé.
Ouais, moi je suis un radical, moi.
Voilà.
Moi ouais, je suis un terroriste, moi.
Et donc, dernier top.
Ah, bah, il y en a encore un.
Il y en a un petit dernier.
C'est comme les poupées russes.
Et oui.
Et voilà, tu en ouvres une. Il y en a encore un.
C'est drôle que tu fasses cette analogie, parce que pourtant, bien que normalement ça devrait être la dernière, donc ça devrait être la plus fine et la plus petite. Et pourtant,
ouais.
Ce dernier top, c'est Barrichello.
Oui, alors que c'est un gros top.
Il est 11e. Voilà, Honda 11e, c'est rare.
Ouais, c'est un bon week-end. Ça a été une course discrète, mais c'est un bon week-end.
Il s'est peut-être souvenu de ses réglages sur Ferrari.
Puis surtout, bah, il a déjà gagné en plus en Chine. Et puis, quand on regarde Button, qui finit 16e.
Ouais,
il y a eu des abandons. Il y a eu deux abandons devant lui. Il y a eu Sutil qui a abandonné, mais ça, c'était derrière lui. Il y a eu Kovalainen et Trulli qui ont abandonné devant lui. Il finit, le pauvre garçon. Moi, Button, je me demande ce qu'il fout cette fin de saison, quoi. Parce que bon, Barrichello est sympathique, hein. Mais quand même, Button, il devrait quand même il devrait être à l'heure avec Barrichello.
Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est un des pilotes qui a été, parce que maintenant qu'il est chez Honda, qui a été quand même un des plus surcotés.
Oh.
Oui, peut-être que s'il avait fait de meilleurs choix de carrière, ça serait mieux passé.
Mais non, mais c'est vrai que t'as peut-être pas tort. Mais en même temps, c'est un Anglais. Ça a longtemps été le seul Britannique.
Oui, voilà.
Donc on l'a un peu. C'est vrai que t'as pas tort.
Froissart le dit. Au final, les pilotes, ils ont les voitures qu'ils méritent.
Voilà.
Je veux dire, un Hamilton. Oui, il a été tout de suite mis dans une McLaren, mais on voit ce qu'il fait avec une McLaren. S'il était meilleur que ça, Button, il aurait peut-être été dans une meilleure équipe que ça.
C'est vrai. Non, je suis tout à fait d'accord.
Là où j'ai un peu peur. Par contre, là où j'ai un peu peur, par exemple, c'est pour un gars comme Rosberg.
Pourquoi donc ?
Parce que je pense qu'il a un potentiel et j'ai peur que sa fidélité.
Rosberg, c'est le fils de son père, donc c'est encore un pilote à l'ancienne qui, je pense, fonctionne beaucoup à l'affectif, même s'il a fait sentir qu'il fallait qu'il y ait des résultats, mais je pense qu'il fonctionne aussi beaucoup à l'affectif. Voilà, mais je pense que Rosberg...
Même si Williams ne veut pas le lâcher non plus, mais c'est vrai que...
Moi, Rosberg, par exemple, je vois bien comme une alternative à Alonso chez Renault ou à un Kubica chez... Enfin, je le vois bien comme alternative, soit chez BM, soit chez Renault, ou pourquoi pas Toyota, le jour où Trulli partira. Je vois bien progresser, puis parce qu'en plus c'est le genre de pilote qui va fédérer une écurie autour de lui et donner l'envie à l'écurie de se battre comme il fait chez Williams, quoi. En ce moment chez Williams, c'est un peu lui qui tient la baraque, quoi.
C'est un fils d'eux, mais il a prouvé qu'il n'avait pas qu'un nom. Et c'est ça qui est bien.
C'est ça en plus qui est bien, c'est vrai qu'il s'est imposé contrairement à Piquet Junior où il s'est même pas mis dans les traces de son père, le pauvre.
Voilà.
Je suis même pas sûr qu'on se rappelle de lui. Mais là, au moins, Rosberg, on se rappellera non seulement de lui, on se rappellera qu'il y a eu un, Rosberg a eu son fils qui a fait de la F1, mais qu'en plus, il s'appelait Nico. Ouais. Mais je pense que sa fidélité aura des limites. Le jour où il y a une grosse place qui se libère.
Bah, souviens-toi qu'on lui a proposé McLaren.
Oui, mais McLaren, c'était à un moment donné assez particulier où.
C'était là, pendant cette intersaison-là, hein.
McLaren, il n'était pas fou non plus. Il savait très bien ce que c'était McLaren. Ouais. C'était aller chez McLaren avec Lewis Hamilton. Mmh. Je suis pas sûr qu'il ait le tempérament. Je crois qu'il est copain avec Hamilton, mais je suis pas sûr qu'il ait le tempérament de se dire je vais me confronter à Hamilton. Ils sont copains dans la vie. Je pense qu'il avait peut-être envie justement de rester copain dans la vie. Il a vu ce qui s'était passé l'année dernière chez McLaren. Et puis il faut quand même se rappeler que l'année dernière, au mois de décembre, McLaren, c'est une équipe qui est pas stable.
C'est vrai.
C'est une équipe qui est sous investigation de la FIA, qui a des contraintes d'un point de vue châssis où elle ne doit pas utiliser certaines solutions. C'est une équipe qui est très sous surveillance, qui voilà. Et puis voilà, il y a Hamilton dans l'équipe et on sait très bien que on avait vu en 2007 que même un champion du monde ne faisait pas forcément de poids face à Lewis Hamilton. Alors tu penses Nico Rosberg, tout fils de champion du monde qu'il est. Puis personnellement, j'aurais pas du tout aimé le voir chez McLaren. J'aurais préféré qu'on mette Sutil, par exemple.
Bon, on va passer au alors. Flop.
Ouais.
Alors, j'aurais pu mettre la course, mais bon, on en a déjà dit.
Non, faut pas viser les courses.
Voilà.
Wow. On a les courses qu'on mérite. Oh, la phrase philosophique.
Ouais.
En même temps, c'est bien.
À Valence, j'aurais mis un flop sur la course, direct.
Ouais, c'est vrai.
Alors,
oui, je te rejoins.
Un petit flop. Un flop qu'on pourra dire que c'est un flop parce que je suis fan de Raikkonen, mais je l'assume. C'est un flop contre Fisichella. Fisichella, car il a fait quelque chose d'honteux, qui aurait mérité une pénalité. Hein. Il n'a pas laissé passer Kimi Raikkonen assez rapidement.
Il a fait perdre
une seconde et demie à Raikkonen alors qu'il était à 6 secondes d'Hamilton.
Oh la vache, il vient de m'exploser l'oreille là, j'ai dit. C'est tellement rare. Non, c'est vrai que Fisichella a été extrêmement limite sur ce coup là. Ouais, il aurait mérité une.
C'est qu'il aura eu l'honneur, je dis bien l'honneur, de voir le majeur de Kimi Raikkonen.
Là, on sent le fan de Kimi qui est révolté. Bon, en fait, au départ, je pensais quand j'ai vu le Grand Prix, je me suis dit tiens, Fisichella, je me suis dit, il est tellement lent qu'il a déjà doublé, qu'il s'est déjà fait doubler par Raikkonen et qu'il a déjà massé sur ses talons.
Mais non.
Et puis j'ai regardé le casque et je me suis dit, bah non, c'est encore Raikkonen.
Avec ce magnifique geste. Moi, j'étais mort de rire quand j'ai vu le geste.
Il est vraiment resté dans la trajectoire. Je sais même pas ce qui lui passait par la tête, quoi.
Oui,
pauvre garçon.
Voilà.
Puis en plus, il a été confirmé pour la saison prochaine. Ça y est, c'est confirmé, c'est officiel.
Oh, mon Dieu.
Ils ont confirmé Fisichella et Sutil. Bon, en même temps, Force India, ils confirment leur pilote toutes les 3 semaines. Ils les avaient déjà confirmés à Valence, je crois, ou un peu à Spa. Bah ouais.
Parce que ça veut dire qu'ils font pas appel à des pilotes payants.
Ils ont tellement de pognon qu'ils vont pouvoir s'acheter des châssis McLaren.
C'est vrai. C'est peut-être une grosse nouvelle de l'intersaison, ça. Allez, un autre flop.
Allez.
C'est Toro Rosso. Qui, pour la première fois depuis je ne sais combien de Grand Prix, ne marque pas de points. Ce qui devrait être quelque chose d'évident pour Toro Rosso, mais qui l'est plus vraiment maintenant.
C'est vrai que ça me fait rire parce que ça fait trois émissions, donc, et les deux premières émissions, le top flop, il avait été fait intégralement par toi. Et c'est vrai que celui-là, on l'a pas fait ensemble, mais tu me l'as présenté, et je t'ai dit, oh non, faudrait mettre ça, ou je t'ai dit, ouais, de la TVH, etc.
Mais j'avais des doutes, justement, quand la course est très chiante comme ça, voilà, quoi, les bons, ils sont bons, mais pas super bons, puis les flops, tu dis, ouais, mais bon, la course n'était pas extraordinaire. Alors que quand c'est une grande course, bon, bah, t'as les gars qui ont cartonné, puis les grosses merdes.
Ouais, voilà. C'est vrai que c'était moins évident parce qu'on avait vraiment envie de mettre un petit peu tout et n'importe quoi.
Voilà.
On aurait mis que des beaufs. mais fallait les mettre juste pour le clin d'œil, quoi. C'est aussi une manière de souligner que leur saison, elle est quand même extraordinaire, quoi. Ils sont deux points en
Red Bull. La Hongrie qui marque pas de points.
Et puis ils sont bien partis pour rester devant Red Bull.
Ouais.
Au point où Red Bull a dit non mais de toute façon nous on est fiers de nos deux équipes, hein, c'est une voiture Red Bull qui va s'imposer.
Et en plus avec le changement de réglementation, finalement ton Rosso va peut-être pas être vendu.
Alors prochain flop.
Alors un qui revient souvent, enfin trop souvent, c'est Kovalainen qui encore une fois n'a pas fini la course.
Oh mais là c'est pas sa faute.
C'est vrai.
C'est la faute à son moteur.
C'est hydraulique.
Hydraulique, ah oui, ah, hydraulique.
Donc en gros, c'est pour dire c'est pas c'est le moteur, mais c'est pas exactement le moteur.
Voilà, c'est on s'est arrêté à temps.
Voilà, c'est, oui, c'est ça, hydraulique, mais... c'est le moteur à péter, mais on s'est arrêté à temps.
Mais il y a des grosses inquiétudes apparemment chez McLaren. D'ailleurs, il paraît qu'on a vu Hamilton aller se renseigner auprès des dirigeants de Mercedes, savoir ce que c'était parce que
dans son moteur.
Il y a déjà Kovalainen a déjà cassé un moteur, je crois, au Japon.
Oui.
Et il avait déjà changé de moteur, je crois, juste avant le Grand Prix du Japon ou juste avant le Grand Prix d'avant. Et ouais, c'est inquiétant. Et bien en même temps, ça montre que il est clairement dans sa position numéro 2, c'est-à-dire qu'il essaye les pièces, qu'il développe la voiture pour cette saison et pour la saison prochaine.
En plus, c'est très chiant pour Hamilton parce qu'il peut pas changer le moteur, parce que le Joker ne marche pas pour le dernier Grand Prix.
Ah bon?
Donc tu sais, il a pas cassé de moteur Hamilton cette année.
Oh, ça sent la règle qui est faite pour Hamilton.
Ils auraient pu changer le moteur, mais non, ils peuvent pas. S'ils changent le moteur, c'est 10 places en moins. C'est pas le moment.
T'imagines, c'est le scénario, ça serait terrible. Mais ouais, bah Kovalainen, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est malheureusement.
C'est pas capacité à Kovalainen de même de seconder Hamilton, quoi.
Ouais, c'est cette espèce d'alchimie où on sent que, je dirais, l'équipe l'abandonne un petit peu, même beaucoup, et où lui, a quasiment renoncé, quoi, à jouer son rôle. On l'a encore vu en début de saison, jusqu'à la veille de l'été, voire essayer de. À Silverstone, il fait quand même la pole, donc oui. Essayer de lutter contre Hamilton, et puis là, bah, il peut rien faire, et puis j'ai l'impression qu'il a renoncé. Donc après Kovalainen, un autre flop?
Bah, le gros flop, on peut dire de la course.
Ouais.
Enfin, c'est vrai qu'il finit deuxième. On a vu pire. Comme
mais flop. Voilà, c'est dur de mettre flop. Oh, bah, oui, c'est un gros.
C'est pas tellement vis-à-vis de la course.
Non,
c'est vis-à-vis de la course au titre. C'est Massa qui, c'est presque heureux qu'il finisse deuxième, quoi, parce que il garde ses chances.
Oui, voilà, et puis on va quand même rappeler qu'il a mis 11 tours à dépasser Raikkonen, son coéquipier, qui était un peu la main, le coude au rétroviseur.
Tu sais quoi le pire? C'est qu'en conférence de presse, il a dit que ça avait été le moment le plus passionnant de sa course.
Mais oui, parce que c'est très drôle parce que en fait, on sait que les consignes de course sont interdites depuis l'Autriche 2002, mais que donc pas consigne de course, c'est vraiment on dit à la radio pendant la course, tu laisses passer l'autre.
Ouais.
Voilà. On sait qu'il y a des codes et d'ailleurs, je vous conseille le prochain Tour du monde de Dino. Oui, voilà, j'en dis pas plus. Mais entre-temps, il y en aura quelques-uns qui vont arriver, je vous promets. Mais c'est aussi pénalisable si on dit après coup, là, c'était prévu qu'il me laisse passer. C'était très drôle, c'est que même dans les déclarations, on sentait les pilotes qui disaient c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sentais bien et tout. Et il y a Raikkonen qui a dit, on lui a dit, ouais, mais vous l'avez laissé passer. Et puis Raikkonen a dit, moi, j'ai fait ce que l'équipe attendait de moi. Et il a pas dit, petite nuance, il a pas dit j'ai fait ce que l'équipe m'a demandé, oui. Il a dit j'ai fait ce que l'équipe attendait de moi. Et là aujourd'hui, pour raconter un peu ma vie, j'ai eu une grosse pétoche. Voilà, parce que j'ai lu un titre sur Luca di Montezemolo qui disait il reconnaît, il y avait écrit il reconnaît les consignes de course. Et je me suis dit, oh le con, il a avoué qu'il avait dit avant à Raikkonen, laisse passer à Massa. Et je me suis dit, ah là, s'il avoue dans la presse ça. Mais en fait, non, c'était pas ça.
C'est à deux courses de.
Oui, voilà, c'est un.
En Autriche, que c'est au beau milieu de la saison, qu'a priori le championnat est ouvert.
Parce qu'en 2002, le championnat n'était pas vraiment ouvert.
Oui, mais bon, voilà. Il aurait pu avoir ses chances, Barrichello.
Mais c'est vrai, puis voilà, vu comme c'est fait, je pense qu'ils avaient pas l'intention de faire ça sur 11 tours, mais vu comme c'est fait, c'est pas gênant. Pour revenir sur Massa, on a vu de visage quoi de Massa, on a vu au Japon le visage quasiment désespéré de Massa qui se fait harakiri. Il est prêt à sauter sur Hamilton pour premier truc, à dépasser n'importe comment pour gagner une place, un point. Et là, on a senti de Massa qui se disait bon bah alors je me fais taper dessus quand je fais le con. Alors je vais être tranquille. Et on a vu, moi je dirais sans doute et même peut-être même pire que Silverstone, on a sans doute vu cette saison la pire course de Massa.
Ah ouais.
Parce que à Silverstone encore, il a une excuse, c'est sous la pluie. On sait que la pluie, il déteste ça. Voilà, c'est un Brésilien, mais ça s'arrête là. Voilà, là, franchement, les conditions sont pour lui. La Ferrari, même si elle était en retrait, là aussi, on pourrait faire un flop sur Ferrari parce que la voiture était en retrait. Aucune erreur dans l'équipe, mais la voiture était en retrait et c'était un peu surprenant. Quand même, là, quand je dis faut qu'il se sorte les doigts du cul, là, franchement, faut qu'il se les sorte parce que il domine quand même Raikkonen toute la saison. Raikkonen, en étant meilleur, il n'est pas non plus super flamboyant sur la course. Et il met 11 tours à le rattraper alors qu'il avait 5 secondes de retard.
Ouais.
Mais moi, je me demande aussi s'il n'y a pas Raikkonen qui a fait... Faut réanalyser les temps tour par tour de Raikkonen. Voir si Raikkonen, à un moment donné, il remettait pas un petit coup de patin pour histoire de dire « Allez, hop !» Tu sais, un peu comme le chien qui court derrière la voiture. Tu t'arrêtes et tu redémarres. Donc j'imagine bien Raikkonen là en train de piloter comme ça à fond. Et puis hop, il est un petit peu trop près. Hop, je réaccélère un petit peu. Faire un bon tour, puis hop, décélérer pendant 2 tours. Le laisser approcher, histoire de lui faire comprendre. Tu vois là, je t'aide, mais comprends bien que c'est moi le patron. Donc, c'est pour moi c'est un énorme flop quoi. Quand on veut être champion du monde, on fait pas une aussi il a fait la course de Kovalainen.
Ouais, voilà.
Alors qu'il est quand même le leader de chez Ferrari cette saison, qui se bat pour le championnat du monde et qu'en face son rival, il est en train de faire sans doute la course de la saison le concernant puisqu'il domine le Grand Prix en ne tenant compte que des courses sur le sec. Donc je pense que là ouais, il se délaie la gueule sur le podium, ça se comprend. Le pauvre, ça, il va nous entendre et puis il va se dire.
Va encore plus déprimé ah, que ce qui déprime en ce moment voilà, parce que là il a quand même eu un gros coup de massue.
Des Kimi, j'ai écouté un peu les SAV de la Formule 1 et là je me rends compte que j'étais dans les flops, c'est pas terrible. j'ai déprime. En plus je comprends pas quoi, il y a Schumacher, c'est son copain quoi, il devrait lui dire. Ouais. C'est même plus
il sait hein, comment gagner un titre. Hein.
Ouais, voilà, mais là, j'en viens même à dire, ça me fait mal pour Massa parce que en plus tout ce que je dis là, je l'ai dit tout au long de la saison. Voilà, je te l'ai dit à toi, je l'ai dit à Enzo, j'ai dit voilà, moi Massa, j'y crois pas, il a pas les épaules pour battre pour le titre, et ça se confirme. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est quand même quelqu'un, c'est quand même un pilote que j'aime bien. Même si je suis convaincu qu'il est, c'est pas le même calibre que les autres, mais voilà, et ça me fait mal parce que j'aurais préféré à la limite, je préfère l'année dernière quand il se plante avant de pouvoir jouer le titre. Voilà, au moins il est transparent, mais on s'en fout, là il est transparent alors qu'il joue le titre. Il a intérêt de se rattraper au Brésil.
Ah oui, puis en plus, bon, chez lui.
Ouais, voilà. Voilà, s'il fait mauvais score chez lui, oh oui, le pauvre. Il est chez lui, il joue le titre dans un pays où on attend un titre depuis 94. On attend le successeur. De Senna et ce mec il va devoir jouer dans un pays où il a gagné les 2 derniers grands prix avec une pression folle pour devenir champion du monde.
Faut quand même dire le truc pour Massa, c'est que ses grands-parents ont vu sur le circuit.
Oh la vache.
Donc c'est pas simplement il est dans son pays, c'est, il est chez lui.
Non mais j'imagine le pauvre Felipe là qui est dans la grande courbe qui monte là, puis à un moment donné il tourne la tête puis il voit sa grand-mère ou son grand-père au balcon, il lui fait attention hein, je te préviens tu gagnes pas je te casse ta gueule en rentrant. L'image, une espèce d'image terrible où le pilote il regarde même plus de côté parce qu'il se dit ça se trouve je vais voir mamie.
T'en compte perdre le championnat du monde devant sa mamie
Ah la vache, arrêtez. Le pauvre. Non, c'est vrai ouais. Que il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Il a pas le droit à l'erreur. Malheureusement, les erreurs, je pense qu'il en a trop fait sur la fin de saison. Des erreurs ou des contre-performances et voilà. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, c'est sur Massa, c'est tout ce que j'ai à dire.
Flop, hein. Qui n'est pas contre la piste, qui n'est pas contre les équipes, qui n'est pas contre les pilotes, non. qui est contre cette chère chaîne de télé française qui diffuse les Grands Prix. Puisque, alors, on avait connu ça un peu lorsque Alonso jouait le titre.
Ah oui,
là,
oh.
Je sais pas ce qui s'est passé pendant Hamilton. Peut-être que c'est parce que nous, on n'apprécie pas spécialement Hamilton. Mais c'était quasiment si pour eux, Hamilton, il n'avait pas déjà gagné le titre.
Oui, oui, c'était...
Hamilton était le plus beau, Hamilton était le plus rapide, puis Hamilton avait un sexe de 2m40, enfin, tout ce que tu veux.
On avait un moment donné, Malbranck, qui disait, en tout cas, il n'aura pas volé son titre, mais il n'a pas encore gagné. Il peut arriver plein de choses, et moi, ils m'ont énervé. Et ce qui était très drôle, en plus, c'était de voir Malbranck qui essayait de nous dire à la fin, qui pendant toute la course avait défendu, enfin pas défendu Hamilton, mais s'était mis à genoux devant la performance d'Hamilton en disant, oh, mon Dieu, c'est notre nouveau Messi, et qui à la fin de la course dit, mais attention, tout n'est pas joué pour Massa et pour Hamilton, voilà. Alors qu'il y a 10 minutes, il disait, oh là, il prend 7 points d'avance, c'est quasiment le titre gagné, c'est bon, il est champion.
Avec une magnifique précision de dire que Hamilton avait réussi à mieux se qualifier que Raikkonen.
Ouais, ouais, voilà.
Qui, alors bon, que... quand même, quand on suit la F1 cette année, n'est pas non plus exceptionnel. Hein, quand
c'est,
on
bah non, je me demande si c'est pas tout le temps qualifié devant Raikkonen.
Dimanche, il y a peut-être à part 4-5 fois.
Voilà. Non, mais c'est un trait qui est assez énervant. Il y avait une époque comme ça, c'était pro Ferrari, puis quand Renault est arrivé. Bah là, on a bouffé que du Renault. L'année dernière, ça avait un peu faibli parce qu'on avait Alonso qui était quand même le chouchou de la chaîne. Alonso, on parlait beaucoup d'Alonso et puis Hamilton est arrivé, c'était le chouchou. Moi, personnellement, Jean-Louis Moncey, ça me dérange pas parce que Jean-Louis Moncey, bon, c'est son caractère et puis que voilà. Et puis il reste quand même, on le voit là, il s'est toujours qualifié de Ferrari. Mais il salue Alonso, il salue la performance de Hamilton et nous encourage même à commenter cette belle performance. Il salue tous les pilotes. On a Lafitte qui, voilà, lui aussi a un mot pour les pilotes, même si de temps en temps il se perd un petit peu dans ses rêves. et on a Malbranck. Alors ça, c'est Malbranck, quoi. C'est le pire, quoi. C'est Malbranck. Tout le temps
parti. Alonso peut le doubler. Il est 20 secondes derrière. Il ne reste que 5 tours en course, mais il peut l'attraper.
Mais ouais, je pense que le jour où il m'a le plus énervé, c'est au Brésil l'année dernière. Il nous faisait la biographie de Raikkonen comme champion du monde à 20 tours de l'arrivée.
Oui.
Et nous, on était en train de hurler, mais ta gueule, ta gueule, ta gueule,
tu peux lui porter la face. Toi, tu hurlais. Moi, j'étais dans ma cuisine en silence parce que je voulais pas voir ça.
Ah bon, à ce point-là?
Parce que, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme tout, c'est... Quand t'as un rêve comme ça et qu'il est sur le point de se réaliser, tu te dis non mon Dieu, ça va, il va se passer un truc et tout. Et moi, après tu cries.
Mais voilà, et moi je n'avais pas arrêté mais de lui dire mais ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et là voilà, c'est franchement énervant dans la course. Voilà, on peut saluer une prestation, mais voilà, on peut dire effectivement le.
Pas un mot pour Massa quoi, alors que j'y chante aussi.
Mais voilà, c'est puis en plus ce qui est chiant avec Malbranck, c'est que Malbranck, il retourne sa veste. C'est ça le truc, c'est que à la limite, il serait fan, il défendrait tout le temps le même pilote.
Ouais. On dirait.
Mais là le problème, c'est que chaque semaine, c'est un pilote différent. Alors on va nous répondre hein. Oh, bah c'est bien, qu'est-ce que vous lui trouvez, il y en a pour chaque pilote. Mais le problème, c'est qu'avec chaque pilote, c'est à l'excès quoi. Avec Hamilton, c'est Alexei. Avec Alonso, c'était Alexei. Voilà, donc à un moment donné.
Souvent, il change, mais en ce moment, c'est quand même souvent Hamilton, Alonso.
Il a vécu une semaine. Il a vécu un mois de septembre de rêve. Hein.
Massa, bon, ouais, ça peut parfois, ça peut l'être. Raikkonen, enfin, c'est comme Lafitte. Ils ont jamais eu l'air de l'apprécier.
Non, je pense que, mais c'est pareil, c'est-à-dire que, c'est là aussi en même temps où je trouve que, on peut les comprendre, c'est que, il y a des pilotes pour lesquels on s'enthousiasme plus que d'autres. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que cette saison, on s'enthousiasme plus facilement pour Alonso, qui a vécu un début de saison galère, ou pour Kubica, ou pour Hamilton, que pour Massa. C'est vrai que Massa, généralement, quand il a gagné ses courses, il était devant.
Il a jamais été franchement très flamboyant cette saison.
Non.
Il a été très rapide. Il a été
voilà. C'est mais... vrai, avouons-le, que Hamilton par exemple était très impressionnant.
Honnêtement, sur la saison, Hamilton, s'il emporte le titre, il l'aura pas volé et
il l'aura pas volé.
Un très très beau champion du monde. Ce qui n'aurait pas nécessairement été le cas de Massa, puisque voilà, Massa, il est pas flamboyant. Il est flamboyant quand il est devant, mais l'inconvénient, c'est quand il est devant, bah, c'est tout d'un coup, c'est moins intéressant. Et Raikkonen, bon, bah, on sait très bien que Raikkonen, tout le monde adore en F1. Tout le monde reconnaît à Raikkonen son talent, sans doute que tout le monde dit, c'est, peut-être il est meilleur qu'Alonso. Souvent, on entend les gens dire, il est meilleur
qu'Alonso. Sur certains points, quand même, je mettrais quand même Alonso devant. Tu vois, même moi, qui suis fan de Raikkonen, j'admets, sur la mise au point, faut avouer.
Oui, non, mais attention, on parle bien au niveau du pilotage pur, ouais. et là, on parle bien sur piste. Là où Alonso, c'est un super pilote, c'est un excellent pilote,
le meilleur metteur au point du.
À l'image de Schumacher, c'est des bosseurs, c'est des mecs qui se sont fait tout seuls. Kimi Raikkonen, on a l'impression qu'il est arrivé, voilà, il a pris la voiture et puis tout de suite. Voilà, c'était inné en lui, un peu à l'image de Senna. Moi, j'ai toujours plus rapproché Raikkonen de Senna que de Schumacher, et j'ai toujours plus rapproché Fernando Alonso de Schumacher que de Senna. Voilà. Et c'est pareil Hamilton. Hamilton, c'est un mec, voilà, il rentre dans la voiture, il n'y a rien à faire. Il se trouve que Hamilton est plus enthousiasmant, ouais. Le personnage est plus enthousiasmant. C'est vrai que Kimi, honnêtement, moi-même, avant qu'il vienne chez Ferrari, il me faisait chier parce qu'il faisait tout le temps la gueule. Voilà, la première fois que je l'ai vu sourire, c'était 6 mois avant qu'il vienne chez Ferrari et j'étais content. Parce que je savais qu'il allait venir chez Ferrari à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, il rigole un peu de temps en temps.
C'est moi qui t'ai montré des vidéos pour te montrer qu'il savait sourire.
Oui, c'est toi qui... Parce que moi, je vivais un drame. Voilà. Mon héros allait partir. J'étais en plein trou. Qui c'est que j'allais trouver pour lui succéder? Pas le mec qui lui avait succédé au palmarès. Je pouvais pas aller pour Alonso. Donc, voilà, il me restait qui? Il me restait Raikkonen. Depuis, je suis devenu super fan. Mais voilà.
Pour dire aussi, Alonso, il a pas eu beaucoup de chance, puisque pour ses deux titres, il s'est opposé à Raikkonen une année, il s'est opposé à Schumacher la seconde. Et finalement, c'est la troisième année où on a vraiment commencé à l'apprécier.
Ouais. Mais c'est vrai que je comprends un peu la réaction de TF1, mais en même temps, voilà, on regarde suffisamment de courses auto, que ce soit sur la NASCAR, que ce soit la 1GP, etc. Et on entend les mecs beaucoup moins partisans, voilà.
Même quand on a des fans, parce que c'est logique quand tu fais.
Ouais, voilà.
C'est normal que.
Là, c'est vrai que ce qui est gênant, c'est que c'est beaucoup trop. C'est en plus, j'ai même pas l'impression qu'il soit vraiment fan d'Hamilton. J'ai plus l'impression qu'il.
Non, ça, c'est vendeur.
Ouais, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure quand il nous dit, oh là là, Alonso, il est à 20 secondes, il va le rattraper alors qu'il reste 5 tours. Là, c'est pareil, il nous a fait le coup. Il restait 7 tours et l'autre avait 8 secondes de retard. Il n'avait pas été capable de lui reprendre 2 dixièmes, je sais plus qui dans la course. Et puis là, tout de suite, c'était le suspense.
Et voilà. Reprendre une seconde par tour, c'est pas simple. Il hein.
faut à un moment donné aussi qu'ils comprennent que c'est pas au commentateur de faire le suspense, c'est à la course de faire le suspense. Si la course n'est pas passionnante, il n'a pas à faire le suspense. Et c'est vrai que ce week-end-là, il n'y avait vraiment rien à dire sur la course.
Voilà. On va passer au classement.
T'as plus de flop?
Bah non, j'allais dire on l'a, mais on l'a avec Toro Rosso.
Oui, c'est vrai. Ouais, qu'on pourrait quand même le mettre. Donc, passons donc désormais au classement de la course. Pour rappeler vite fait, on va le faire super vite. On va voir si j'arrive à le faire super vite. En première position, Lewis Hamilton, deuxième, Felipe Massa, troisième, Kimi Raikkonen, quatrième, Fernando Alonso, cinquième, Nico Hülkenberg, sixième, Robert Kubica, septième, Timo Glock, huitième, Nelson Piquet, neuvième, Sébastien Vettel, dixième, David Coulthard, onzième, Barrichello, douzième, Kazuki Nakajima, treizième, Sébastien Bourdais, Marc Weber, quatorzième, quinzième, Nico Rosberg, seizième, Jenson Button, dix-septième, Giancarlo Fisichella, abandon Kovalainen, Adrian Sutil, et Yann Trulli. Wouhou! Je l'ai fait!
Ça va.
Alors, vous avez rien compris? Eh ben, on vous renvoie sur le site StatF1, comme ça vous aurez le classement. Donc, au classement des championnats, ça nous donnait.
Ah, là, attention, c'est important.
Ah oui. Attention.
C'est très important, le championnat, parce que là, en plus, quand tu vas détailler le championnat, je vais même te... on peut même commencer à envisager les stratégies pour le... la dernière course.
Oh non, on fera ça après.
C'est très important.
Ouais. C'est après, voyons.
Si tu veux.
Je te laisse donner le championnat. Je suis seigneur. J'en ai tellement bavé sur le dernier.
Ouais. Alors, Lewis Hamilton est toujours premier avec 94 points. Il a désormais, il avait 5 points de d'avance, il en est désormais 7. Donc, Singapour sur Massa. Kubica a perdu le titre, il est à 75 points. C'est triste, hein. Raikkonen est toujours quatrième, 69 points.
Ah, mais Raikkonen, c'est quelque chose.
Hein. Oh, il peut toujours aller chercher la troisième place.
Il faut qu'il reste à Kubica. Hein. Attends, être champion du monde et finir quatrième, c'est des boules.
C'est vrai. Hetfeld, cinquième à 60 points. Alonso gagne une place.
Ah oui, il a passé Kovalainen.
Il passe Kovalainen. Pour vous dire à quel point la saison de Kovalainen n'est pas extraordinaire. Donc Alonso, 53 points. Kovalainen, 51. Sinon, Trulli, Vettel, égalité à 30 points. Ouais. Là, déjà, il y a...
Comme avant.
C'est fou quand même, parce qu'Alonso, il était dans le deuxième groupe et en... trois courses.
Il s'est glissé vers la tête, ouais.
Voilà, il s'est glissé. Chez les constructeurs, Ferrari est premier. Ouais. 156 points.
11 points d'avance sur McLaren.
11 points devant McLaren-Mercedes.
Ouais.
Donc 145 points. BMW est troisième à 135 points. C'est mort pour le titre. Je pense même que pour la seconde place, c'est mort aussi.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Quatrième, Renault. Alors là, c'est sûr, certains, ils finiront quatrième, ouais. 72 points.
Toyota
5ème, c'est pareil, 52 points. 6ème, Toro Rosso, 34 points.
Comme on
points.
Disait, Toro Rosso, ça devrait quand même être. Ça devrait rester en l'état.
À Red Bull marquait 5 points de plus que Toro Rosso, ça paraît difficile. Voilà. Donc Red Bull est à 29 points. Williams est seulement à 3 points. Moi je dis 3 points, pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas? Ouais.
Pourquoi pas? Un bon Rosberg, par exemple, c'est pas. Honda, 9ème avec 14 points. Ils ont plus une chance chez Force India pour marquer des points.
Ouais, en plus, c'est leur objectif, c'est marquer un point. Les pauvres. Ils sont morts de faim. Voilà, puis en plus, ce qui est assez drôle, c'est. On a, donc dans les deux classements, on a Hamilton, champion, enfin, potentiel champion, et Ferrari, potentiel champion constructeur. Donc là c'est pareil, si on s'amuse à remonter un peu dans le temps, 2005, 2004 c'était, voilà, par contre, alors là on peut remonter jusqu'à 99 je crois, c'est 99 ou 2000, c'est 99, on peut remonter à 99 pour retrouver une situation où c'est le pilote d'une équipe qui est champion pilote et le pilote que c'est un autre constructeur qui est champion, voilà. Donc, c'est encore sur Ferrari que ça tombe le titre constructeur.
Alors, bon, pour les stratégies.
Oui.
Forcément, là, les résultats.
Puisqu'il reste une course au Brésil.
Bah, sans doute, il y aura des stratégies qui vont être mises en place. Donc, il y a 7 points d'écart entre Hamilton et Massa. Pour faire simple, Massa, pour qu'il soit champion du monde.
Il faut qu'il gagne.
Il n'y a que deux possibilités. Soit il gagne, et dans ces cas-là, Hamilton ne doit pas faire mieux que 6ème.
Ouais.
Et dans ce cas-là, il y aurait égalité de points et Massa aurait une victoire de plus.
Ce qui rendrait le titre polémique, parce qu'en plus, il faut quand même se rappeler qu'on a retiré une victoire à
la
donner à Massa derrière. Donc ça rendrait le titre extrêmement polémique.
Je veux pas dire, mais de toute façon, si Massa gagne, ça risque de.
C'est vrai.
Ne serait-ce qu'avec les points.
Parce que, voilà, on a quand même retiré 6 points, je crois, enfin, il y avait 6 points en jeu dans l'affaire de Spa-Francorchamps. Donc si on fait les calculs,
il y a aussi le point 7, 6, à Fuji, on lui a donné.
Voilà, il aurait pu avoir 13, même 14 points effectivement avec les points de Fuji, 14 points d'avance pour Hamilton. Il aurait été titré en Chine.
Voilà.
Ouais. Ça aurait été une belle histoire parce qu'il avait raté le.
Donc là, ça finit deuxième. Hamilton doit finir au maximum huitième. Dans ce cas-là, il y aurait égalité de points, mais Massa aurait aussi. Alors il y aurait le même nombre de victoires, mais une seconde place de plus pour Massa.
Ok.
Donc pour le championnat pilote, ce qui paraît évident, c'est que Ferrari va jouer le doublé.
Ouais.
Là, en gros, faut pas qu'il réfléchisse.
On peut voilà, c'est.
Le truc, c'est que chez Ferrari, il faut pas qu'il réfléchisse, faut qu'il fasse le doublé et faut qu'il prie que on ait par exemple des BMW des Renault, pourquoi pas des Toyota,
un peu comme l'an dernier, voilà.
Et McLaren.
Et pourquoi pas un problème, même à la limite un abandon d'Hamilton. Mais voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas leur sort entre leurs mains.
Donc, en contrepartie, Hamilton, logiquement, ça devrait être une course où il va pas jouer la victoire, il va jouer placé.
C'est justement le problème, c'est est-ce qu'il doit jouer placé? Est-ce qu'il doit jouer placé ou est-ce que au contraire, on a vu que l'année dernière, ça lui a, les calculs de mathématiques, etc., ça lui a pas réussi. Là, c'est vrai qu'il
a... Peut-être que le plus simple, c'est qu'il essaie de faire le mieux possible. Voilà.
Ce qu'il faut qu'il fasse, moi, je pense que Hamilton, la philosophie avec laquelle il va prendre cette course, c'est de la gagner. Voilà, la meilleure manière de remporter le titre, c'est de gagner la course. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il va la prendre, et puis il paniquera pas s'il est derrière les autres, parce qu'il sait qu'au bout il y a un titre et qu'il a perdu comme ça l'année dernière en faisant l'idiot. Ce qui nous amène donc au pronostic pour la course du Brésil.
Ah, on peut parler aussi des constructeurs.
Oh, c'est joué.
Bah, et il y a le titre. Il y a...
S'il faut que Ferrari marque 5 points, c'est bon. Même pas.
Il y a 11 points d'écart.
Faudrait que McLaren fasse un doublé, ce qui me semble peu probable, puisque Kovalainen...
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu inversé par rapport à l'espoir pour les championnats pilotes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que McLaren fasse un très bon résultat. Et eux, faudrait qu'ils prient pour qu'il y ait un pépin au moins sur des Ferrari.
Et puis en plus, on a quand même vu là cette semaine, on est jeudi, donc on a eu quelques déclarations. McLaren qui a dit que le titre constructeur, ce qu'ils visaient, c'était le titre pilote. Donc, sous-entendant que le titre constructeur, ils n'avaient pas vraiment l'intention de se battre pour.
Ce que j'adore, c'est qu'ils ont dit, oui, le titre constructeur, c'est vrai que c'est le plus prestigieux, mais on préfère que c'est Hamilton. C'est vrai que même si le titre constructeur est plus prestigieux, celui qui
est plus important,
qui sera le mieux.
C'est pas vraiment qu'il est prestigieux, c'est vrai que le plus prestigieux, c'est pilote, mais c'est vrai que le titre constructeur, c'est le plus important. Puisque contrairement à un pilote, tu fais pas ta pub en mettant champion du monde 2008. Un constructeur, il peut mettre le macaron champion du monde 2008. Donc ça peut aider à vendre. En même temps, je pense que Ferrari n'a pas nécessairement besoin d'un titre champion du monde pour vendre des voitures. Mais voilà, c'est vrai que ça fait quand même. Encore une fois, Mercedes, eux, ils se battent pas pour le titre pilote. Eux, ils se battent pour le titre constructeur. Le titre constructeur, ça fait quand même un bail qu'ils l'ont pas vu. Ça va commencer à faire long.
Le titre pilote sera quand même plus vendeur sur les publicités.
Oui, peut-être. Mais je pense pas que non plus il faut.
Je suis patron d'écurie, je joue le titre pilote, je suis patron de chez Mercedes, je joue le titre pilote pour vendre
des bagnoles. Mais je suis pas non plus persuadé que Dennis et Hogue ont raison en disant le titre constructeur ne nous intéresse pas, ça se méprise pas. Le titre constructeur, ils peuvent essayer de l'avoir, ils ont besoin d'un doublé, de croiser les doigts comme tu dis, mais il faut qu'ils aillent se battre. Dire 15 jours avant, oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le titre pilote, je trouve que c'est pas une bonne image de l'écurie, voilà, ça veut dire grosso modo, notre partenaire, on s'en moque, c'est quand même le titre constructeur, c'est quand même le récompenser aussi le partenaire et toute l'équipe, et voilà, même s'ils auront leur récompense par le titre constructeur, par le titre pilote, décidément j'ai du mal.
Et le risque, c'est qu'il se passe rien au Brésil.
Oui, c'est honnêtement, c'est ce qui va se passer.
Certainement. Voilà.
Ce qui nous amène donc vers nos pronostics. À la fois pour la victoire
et les championnats.
Et les championnats.
Je commence.
Bah, vas-y.
Bon, pour la course, ça va pas être surprenant, hein, mes pronostics. Hein. La course, c'est Massa.
Ouais.
Parce qu'il est chez lui, parce qu'il a gagné il y a 2 ans, parce qu'il aurait dû gagner l'an dernier, on le sait. Il est chez lui, il va gagner. Il sait que pour le titre, s'il veut espérer, il faut qu'il gagne. Donc, Massa.
Moi, pour la course. Je vais faire original. Je vais dire Raikkonen. Et pas parce que Raikkonen ne laissera pas passer Massa, etc. Parce que je pense que Massa ne fera même pas un podium. Je pense qu'il va arriver à Massa, ce qui est arrivé à Hamilton l'année dernière. Il va avoir la pression tout le week-end. Et je pense qu'Hamilton est déjà en train d'en jouer dans la presse. En disant voilà, moi la pression elle est pas sur moi, hein. Moi je suis en avant, j'ai juste à gérer la course. C'est à Massa de venir me chercher, il est devant son public, il est attendu. Donc je pense que Massa va peut-être un petit peu déchanter
Voilà, moi je pense que Massafre ne gagnera pas la course et que ce sera Raikkonen qui gagnera la course. Ça va me remonter dans le coin de la gueule, ça. Ah, ouais, ouais. Un jour, tu vas te foutre de ma gueule, je le sens. Alors, pour les titres.
Donc, pour les titres, je pense pas non plus que ça bougera.
Non.
Donc, Hamilton, le titre pilote, ce qui sera pas plus mal parce que comme on l'a...
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.
Alors voilà, nouvelle coupure involontaire. Alors, on espère que vous aimez Beethoven. Donc, on en était où ?
On en était sur les pronostics de titre.
Voilà.
J'avais dit donc que ça bougerait pas.
J'avais dit que ça bougerait pas. Donc ça bougera pas.
Non.
Non mais allez. Bon, puisqu'il faut que je sois comme ça, soyons fous. Je vais pronostiquer Massa pour le titre.
Pour le titre ?
Voilà.
D'accord.
Puisqu'il faut que... On verra bien. Comme ça, il y en aura au moins voilà. Deux corateurs. voilà. Scénario. Raikkonen domine tout le monde. Il gagne la course. Massa, bon, il est un petit peu en dessous. Il fait huitième. Hamilton abandonne. Massa à 8 points. Il remporte le titre avec un point d'avance. Comme l'année dernière.
Oh, comme l'année dernière.
Allez hop. Je vous vends le scénario. C'est cadeau. C'est offert. C'est la maison qui paye.
Mais, sur les 4 scénarios possibles, il y en a, enfin, par rapport à Ferrari, McLaren, Hamilton, Massa, il n'y en a sans doute qu'un seul qui n'aura pas lieu, c'est Massa plus McLaren.
Donc voilà, donc c'était le Grand Prix de Chine. Comme on arrive au Brésil, on va peut-être donner quelques petits trucs pour se remémorer de la saison que nous venons de passer.
Oui.
Alors, deux catégories vidéo. Une catégorie vidéo, on va dire, vraiment vidéo résumé course, que je conseille d'aller voir.
Un site qu'on conseille.
Voilà, c'est sur le site le site officiel de la Formule 1. Voilà, en fouillant bien, vous allez trouver...
Formula1.com.
Voilà, Formula1.com. Vous fouillez un petit peu, vous allez trouver des vidéos rétrospectives de la saison 2008 et de la saison 2007. Vous pouvez les trouver aussi sur YouTube. En cherchant FIA, enfin, ou Formula One official, et puis vous mettez le numéro du Grand Prix. Les vidéos sont bien faites, et puis elles sont en haute qualité, et puis ça permet de revoir un peu les événements de la saison. Et toi, tu avais une petite trouvaille à nous faire partager dans la même catégorie, mais plutôt catégorie humour.
Oui, alors j'ai découvert ça très récemment, il y a 2-3 jours. C'est...
Vas-y, prononce le nom, vas-y.
Je suis gâté, hein, genre, c'est ça.
Ah ouais. Donc, tu commences par des vidéos, tu finis un numéro espagnol.
Donc, ce sont des vidéos qui s'appellent Los Quemagomas.
Los Quemagomas.
Los Quemagomas. Donc, ce sera bon de mettre le titre, je pense, sur le topic.
Oui, voilà. On vous mettra les liens.
Ouais, on vous mettra les liens. Donc, c'est de l'espagnol, tu l'as dit.
Voilà.
Alors, j'ai cherché la traduction, quand même, du mot.
Oh.
Alors j'ai pas trouvé de traduction du mot mais attention tu vas vite comprendre le sens.
Ouais.
Gomas c'est la gomme.
Ouais.
Et quema c'est brûler.
Ah donc c'est les brûleurs de gomme.
Voilà c'est les brûleurs. Donc dans le contexte de la F1 ça paraît logique.
Voilà.
Donc ce sont des petites vidéos d'une minute, 1 minute 30.
Ouais.
Qui sont diffusées sur Telecinco en Espagne.
Voilà,
la chaîne qui diffuse la F1, c'est la chaîne qui diffuse. Donc ça s'est diffusé dans l'émission avant-programme. Voilà. Mm. Nous on a la Gazette et eux ils ont ça. Et donc l'originalité du truc, c'est que ce sont des petits dessins animés.
Centrés sur le personnage d'Alonso, mais pas seulement.
Bah c'est-à-dire que c'est centré sur le personnage d'Alonso parce que il est espagnol, on est sur chaîne espagnole, il le supporte. De fait aussi, comme on est sur une chaîne espagnole, si vous n'aimez pas Milton, vous adorez aussi.
Vous allez vous réguler. Quoique, assez bizarre. J'en ai vu quelques-uns et j'ai surtout vu ceux du début de saison, donc ceux où quand même le l'anti-hamiltonisme devait être très très fort chez les Espagnols. Je pense qu'il a dû baisser au fur et à mesure de la saison.
Ouais.
Et j'ai pas trouvé nécessairement que c'était très, c'est pas très méchant sur Hamilton.
Non, voilà. non, c'est jamais méchant.
Voilà.
C'est l'humour, c'est voilà, ils le font passer un peu pour un idiot, rien de plus. Hein.
Voilà.
Préciser que il n'y a pas de dialogue. Donc,
voilà,
au niveau de la langue, il n'y a pas de problème.
C'est plus par anglais.
Il y a deux, trois mots en espagnol, mais c'est pas trop compliqué. Alors, on y voit à peu près tous les... Donc, on voit beaucoup Alonso, c'est normal, Piqué.
Mais Alonso, c'est pas lui qui s'en prend, mais Alonso, il a quand même... il est quand même servi dedans.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est... On parle beaucoup de sa voiture.
Ouais.
D'ailleurs, la première vidéo, c'est le résumé de la saison 2007.
Oui, c'est assez drôle, les résumés.
Et la manière qu'il arrive sur Renault.
Ouais, c'est le résumé de sa saison en 1 minute 30. Il y a Hamilton, fils et père.
Ouais.
Forcément. On voit Bernie Ecclestone. On voit Luca di Montezemolo. On voit une bonne partie des pilotes. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que Massa, il est plus beau en dessin animé qu'en vrai.
C'est vrai en plus, oui, c'est ouais, vraiment.
T'as remarqué, hein. Puis il y a des gimmicks. Alors forcément, Raikkonen, dès qu'on le touche, les gens se transforment en glace. C'est très cartoon. Et voilà, on le dit, ça manque d'humour en F1 et ça fait plaisir de voir des choses comme ça.
Mais non, ça ne manque pas d'humour. Il faut juste aller sur le site enzof1.com. Ouais. Moi déjà, il faut que chez Ferrari, il faut qu'il clarifie les choses. Ça semble être en voie, parce que quand on demande à Raikkonen de lui dire « Tu veux avoir ta voiture, tu fais 9000 bornes pendant un mois cet hiver », c'est clairement qu'on fait comprendre à Raikkonen « Tu veux être le leader de l'équipe,
je crois que cette année, donne... chez Ferrari, ils ont compris lequel des deux pilotes était capable de gagner un titre.
Mais voilà, ça fait deux saisons où on se rend compte qu'une équipe ne peut pas entretenir deux espoirs dans la saison.
Ça pouvait aller l'an dernier, mais...
On l'a vu l'année dernière chez...
Des limites, hein.
Chez Ferrari, ça s'est arrêté au bon moment. Mais chez McLaren, on a vu, ça a été catastrophique.
Voilà.
Les deux pilotes pouvaient jouer le titre. Jusqu'à la dernière course, les deux pilotes se sont rétamés pour se faire battre par l'équipe d'en face. Une équipe, en plus, qui était à la bourre dans le championnat constructeur. Et là, cette année, Kovalainen n'a jamais vraiment existé à côté de Hamilton. Et de toute façon, on lui aurait jamais laissé de la place. Et on a en face, chez Ferrari, on a vivoté un petit peu trop longtemps avant de prendre une décision. Voilà, la décision n'avait pas été faite suffisamment tôt, fallait prendre la décision au mois de juillet et dire voilà, maintenant, on se bat pour Massa. Puis on a commencé à prendre la décision qu'à partir de Fuji. C'est bien, Fuji, on avait un leader. Ouais, c'est plus que trois courses.
Comme quoi, et morale de l'histoire, en F1, l'idéal, c'est pas d'avoir les deux meilleurs pilotes du plateau dans une équipe.
Mais c'est l'idéal, voilà, c'est l'idéal parce que
il faut un très bon. Et il faut un très bon qui gagne des titres.
Mais voilà, non, mais voilà, c'est... honnêtement, moi, je persiste et signe. Aujourd'hui, Ferrari a le meilleur duo de pilotes.
Ah ouais, sur la moyenne, ouais, c'est clair.
Et de ces dernières saisons. Ouais. Honnêtement, le titre constructeur, est-ce qu'il le mérite? Je suis pas sûr. Et ils vont le gagner en sachant que Raikkonen a fait 4 abandons de suite, que Massa en est à pas mal d'abandons non plus, alors qu'en face, ils ont battu un champion du monde, un potentiel champion du monde. Donc voilà, c'est une bonne saison. Et il prouve qu'effectivement, un bon duo comme ça, c'est bien. Mais le problème de Ferrari cette saison, c'est qu'ils ont été confrontés à un Raikkonen qui était un petit peu en perte de vitesse et un Massa qui a voulu peut-être se faire plus gros que le bœuf. Voilà. Et le problème, c'est que voilà, faut qu'on soit clair la saison prochaine, lui dire voilà, t'as eu ton opportunité de te battre pour le titre, t'as vu ce que ça donnait, t'es pas à la mesure, voilà, tu vas finir à 8 ou 9 points de Hamilton, mais honnêtement, tu devais être à 15 points.
Mais
voilà, si on n'avait pas aidé par la FIA, tu devais être à 15
ouais.
points. Donc voilà, après, on n'est pas à l'abri de d'une voiture ratée de chez McLaren et que ce soit les deux Ferrari qui se battent pour le titre. Hein.
Mmh. Attends, parce qu'on sait, qui sait ce qui peut se passer au Brésil, qui sait.
Oui, voilà,
s'il y aurait bien une situation qui serait horrible, c'est bien deux champions du monde chez Ferrari.
Ah là 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 là. C'est surtout
en plus. Je conclurai l'émission comme ça.
Oui, c'est très bien.
C'est une très belle conclusion.
On va, ouais, on va vous donner rendez-vous dans 15 jours.
Dans 15 jours à peu près.
Pour l'émission spéciale Brésil. Mmh. Voilà.
Juste préciser, je voulais l'évoquer, hein. Bien évidemment, pour.
Non, tu ne dis rien. Non. On s'arrête sur ta dernière remarque.
Non, mais sérieux, deux champions du monde chez Ferrari.
C'est la merde. Surtout, il va y avoir des. Déjà qu'ils avaient du mal à choisir entre un champion du monde et son numéro 2, qui était même pas son dauphin, qui était quatrième l'année dernière. Alors t'imagines choisir entre deux champions du monde. Comment qu'on fait Kimi, t'as pas envie de continuer de faire une saison de merde toi, cette saison, non? En plus, c'est pareil, les mecs, par rapport à la saison de Kimi, ils vont être tentés de dire, ouais, on prend Kimi. Massa, c'était un coup de bol, quoique Kimi aussi, mais Massa, c'était un coup de bol.
Ouais, voilà.
Kimi, il peut renouveler l'expérience. Mais là, ils vont être tentés de se dire, attends, est-ce que Kimi va pas nous refaire la même saison que l'année dernière? Et là, ils vont se dire, ah ouais, on va peut-être prendre Massa. Mais là, est-ce que Massa va pouvoir faire deux fois un exploit?
Donc tu vois, peut-être que pour le Brésil, chez Ferrari...
Mais en fait, c'est pour ça que j'aime pas Massa. Je ne veux pas qu'il soit champion.
Si Massa... De toute façon, si Massa est champion, la merde. Hein.
Mais ouais, mais... C'est voilà, donc on restera sur cette réflexion philosophique. Faut pas que chez Ferrari, Massa soit champion.
Parce que sinon, ça fera deux champions du monde, l'an prochain. Voilà, et ça, c'est... McLaren, ils le savent assez bien. Parce qu'ils l'ont connu.
Ah ouais, ouais.
C'est pas évident à gérer.
Ah, puis on sent quand même que. On sentait l'année dernière que Massa faisait comprendre à Raikkonen écoute, je te laisse passer au Brésil, je te laisse passer chez moi, mais l'année prochaine, c'est moi.
Oui. Bah, ce sera.
Alors, si en plus Massa, effectivement, il confirme que l'année prochaine, c'est lui, on a quand même vu. Si je reviens toujours sur cette image de la course sur le Grand Prix de Chine. On a quand même vu Raikkonen faire comprendre à Massa que t'as mis 11 tours à me doubler. J'ai mis un petit coup de frein quand il fallait, puis hop, un petit coup d'accélérateur quand il fallait. Et t'as vu, sur la ligne, à 10 mètres derrière, je t'ai repassé. Hein? C'est que j'étais pas si loin. Puis apparemment, bon, ils s'entendent bien, mais ils se parlent pas beaucoup.
Non.
D'ailleurs, c'est ça que tout le monde... C'est... Quand vous demandez à un pilote de Formule 1, dans F1 Racing, il y a toujours les interviews des pilotes. Quand vous demandez à un pilote de Formule 1, est-ce que vous avez des copains en Formule 1? Et c'est tous les
jamais,
pilotes.
C'est jamais les gars qui sont dans la même équipe.
Et il y a jamais Kimi.
Ouais.
Et puis, la question arrive...
Il y a le lien finlandais entre Kova et Kimi.
Voilà, mais la question dans les interviews arrive toujours, et Kimi Raikkonen. Est-il votre ami? Et là, généralement, les mecs disent, bah, vous savez, il parle pas beaucoup, on le voit pas beaucoup. Donc, il est sympa.
Sauf dans les soirées Red Bull. Là, c'est le copain de tout le monde qui met.
J'avoue que là, il est 23h41, le café a pas agi. N'empêche, j'avais dit, hein, ça va être une émission super courte. Hein.
Tu parles.
Bah, maintenant, on a du mal à finir. Je vais me faire braire à la montée. Vous l'aurez que dimanche.
Sans doute.
Parce que là, c'est plus du café qu'il me faut, là, c'est de l'agneau. Voilà. Donc, c'est sur ce petit moment d'égarement.
Mais.
Que.
Qui est absolument très intéressant.
J'ai cru que t'allais rajouter un truc.
Non.
Merde, encore 8 minutes de montage. Donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours après le Grand Prix du Brésil pour un petit bilan de la course du Brésil et sans doute plus un bilan de la saison. Ouais, quoique, on a déjà fait pas mal de bilans de la saison.
Ouais.
Et puis, ouais, et puis voilà.
Une émission spéciale bilan de la saison.
Oh non, c'est bon, non, on m'en rajoute pas. Non, mais l'autre, il est fou. Ouais. Alors, je te préviens, les deux prochaines émissions, si on fait ça, c'est toi qui les montes. D'accord. Et ça a intérêt d'être de qualité, mais suprême. D'accord. Ça me dérange pas. Moi, je veux bien faire une exclusive bilan de saison ou pré-saison si tu veux au mois de janvier. Ça me dérange
plutôt,
pas. Mais
non,
tu montres.
Plutôt, ça c'est plus intéressant pré-saison.
Voilà, bah ouais. Donc ça, on pourra vanner Alonso. Voilà. On pourra parler d'Hamilton.
Bonne nuit à tous.
Bonne nuit, mais non, s'il se réveille, c'est pas bonne nuit.
Eh ben,
monsieur, il se prend en direct.
Oui.
Monsieur, il se prend en direct.
Non, on n'est pas en direct.
Alors, bonne nuit à tous, sauf pour les gens qui écoutent le matin. Bonne matinée, voire peut-être ceux qui sont en train de l'écouter en début d'après-midi. Bon après-midi, ou peut-être en fin d'après-midi. Alors dans ces cas-là, bonne soirée.
Hein. Et on rappelle à Enzo, faut faire attention au feu rouge quand il conduit.
Ouais.
Hein. Donc voilà, mais on est cramé. Je à la fin, je vais me dire, mais est-ce que je le garde ça? Je sais pas. Donc voilà, définitivement. Bonne semaine à tous. Rendez-vous dans 15 jours et bon Grand Prix du Brésil. Au revoir.
Au revoir.
Et à très bientôt.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.